Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre
pour une parole libre.
Il s'agit donc de brosser le tableau un petit peu sur le contexte actuel de la situation, يعني الوضعية السياسية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية, يعني الوضعية العامة في الجزائر, ويعني في كيفاش يقولوا في عشية الانتخابات الرئاسية, c'est-à-dire à la veille de l'élection présidentielle d'avril, et évidemment, c'est-à-dire du point de vue du Parti socialiste des travailleurs, حزب العمال الاشتراكي. Donc, يعني je pense que là qu'il faut quand même rappeler brièvement quelques éléments de la situation internationale, parce que la situation الوضع الجزائري راهو في خضم, يعني dans le cadre d'une situation internationale ou régionale aussi, etc. Donc يعني لازم نعطيو بعض المعالم على الاقل, يعني نذكروا بلي العالم راهو عايش في نظن يعني الازمه تاع النمط الليبراليه الجديده, c'est-à-dire le modèle néo libéral est en crise depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça a commencé même à la fin des années 90, 98, où on a commencé, c'est-à-dire les penseurs et les idéologues et que le modèle néolibéral qui a commencé à la fin des années 70, mais depuis au mois 2007-2008, c'est-à-dire la dernière, ce qui a été appelé la crise financière, etc., la crise des subprimes, etc., il y a une marhala jdida de ce cycle de l'azma. اي دونك ستادير نشوفوها باللي كيما حنا نقولوا في العالم نشوفوا مثلا هاد الازمه الاوجه نتاعها سي لو روتور باغ اكزومبل ليميرجونس دي بوبوليزم يعني الشعبويه اليمين المتطرف الاكستريم دغوات اكسيتيرا في العالم, مي الاكستريم دغوات سوني با اونيكمون يعني باش يقولوا شغل لو بان في فرنسا نو ستادير سي يعني خذات توجهات اخرى, مثلا ترامب من نوع سي اون اولترا دروات ترامب في الولايات المتحده الامريكيه, ولا بولسونارو ولا اسمه هذاك تاع او برازيل اي ايور اكسيتيرا. دونك هذا الانواع نشوفوا واش راه في ايطاليا, نشوفوا في en Pologne, en Hongrie, en Autriche, etc. Il y a une émergence qui est en train de se faire. Donc, c'est un peu comme ça. Et cette réunion, c'est un peu comme ça, avec un autoritarisme, sur le plan économique, il y a un protectionnisme qui est mis en avant, et donc la défense de chaque puissance impérialiste, c'est-à-dire que la puissance impérialiste est de faire le souk et de faire le masalh. ضد الامبرياليات الاخرين. دونك اون فوا بيان المشاكل الموجوده حاليا entre les États-Unis, l'Union européenne, la Chine qui est un élément de cette crise, parce que l'émergence de la Chine كقوه اقتصاديه واول قوه تجاريه في العالم, ثاني قوه اقتصاديه, دونك a créé aussi une situation bien plus compliquée pour les puissances impérialistes classiques. ويعني ثاني كاين هذا الجانب نتاع الانترفونسيونيزم, يعني هذا لوتوريتاريزم بوتيت او نيفو ناسيونال. كون اون فوا باغ اكزومبل ان فرانس لا ريبريسيون اللي راهي واقعه نتاع لي جيلي جون, يعني ما كناش نتصوروا بلي في فرنسا يعني يمنعوا المانيفيستاسيون يقرصوا على, يعني ما كنتش نتصورها. دونك هذا النوع من لوتوريتاريزم هذا الداخلي عنده ثاني توجه خارجي اتخافير الانترفونسيونيزم, يعني تدخل الامبريالي يعني امبرياليست في البلدان المختلفه. نشوفوا اخر مناص تاع الولايات المتحده اللي راهي يعني تجيب الجيش نتاعها في الحدود مع فنزويلا في كولومبيا كتيرا باش تهدد في اسمه. ولكن ايضا الانترفونسيونيزم بدا شفناه سوا دون لي بي عرب الى كالكو زاني اون ليبيا اون سيري اون ايراك اكسيتيرا, مي ايضا في مواقع اخرى في العالم. اي ايفيدامون سادير دون لا ريجون سا سيكسبريم, ولا يعني هذا الشيء يترجم سو تخاتفي بار الضغوطات المختلفة نتاع الإمبريالية على البلدان اللي يعني ماهيش خاضعة بصفة 100% للمصالح الإمبريالية. البلدان اللي ماهيش خاضعة 100% على خاطر كاين بلدان خاضعة يعني كومبليتمون, يا دي بيي كي لو سون با أونكور. والجزائر بالك من بين البلدان اللي ماهيش خاضعة 100% ولو راهي في التوجه هذا تاع لا نورماليزاسيون يعني نيوليبرال في العالم, وخاضعة يعني في طريق الخضوع, مي مازال ما خضعتش 100%. الجزائر دونك كاين ضغوطات سوا ساتير سيكوريتير دون لي فرونتيير اكسيتيرا كوم اون لو سي ساتير دو بارتو, سوا ضغوطات اقتصاديه, سوا ضغوطات في جوانب اخرى. وشفنا بلي مانيش عارف انا مثلا بوتفليقه حل الفضاء اون 2013 الطيارات نتاع فرنسا راحوا لمالي مثلا, هذا نوع من الخضوع يعني واسمو نشوفوا بلي مثلا دي بوديلاب غونا دي الجيري ماهيش موافقه باش تدخل في اليمن مع السعوديه، مي ما قالتش كيفاش السعوديه، عيب عليكم تضربوه تدخلوا في اليمن وتبومبارديو ولاد اليمن، يعني ما كانش هذا هو الموقف تاع الجزائر، يعني دي بوديلاب يعني بون دونك سيتادير، يعني وهذا يشكل يعني نوع من 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 طريق نتاع الخضوع، والخضوع راح يكون اكثر اذا ما قاومناش، اذا ما كانش مقاومه رايحين نخضعوا. سي بوركوا المساله نتاع يعني الوقوف ضد الهجمة الامبريالية هذه مسألة جوهرية وأساسية بالنسبة لنا، يعني بون هذا يعني أبتدو يعني بعض المعالم، لأن النقاش نتاعنا حول الجزائر. دونك في الجزائر بالحقيقة يعني كل الناس تتكلم على الأزمة، الأزمة تاع النظام، الأزمة تاع الأزمة الاقتصادية، الأزمة، ولكن يعني الأزمة هذه في الحقيقة يعني ما نتكلموش بالك عليها بصفة كما احنا نقولوا معقولة. اليوم مقبلة كنا نتكلموا على قالك كاين في خراطة اليوم صباح ضد العهدة الخامسة، وقالوا لنا في جيجل وعين مليلة البارح ولا البارح، وفي الشلفية دو طواجور وإليا عنابة يا بون، مي رانا ضد العهدة الخامسة داكور، رانا ضد الاستمرارية تاع النظام، ولكن يعني واش هو البديل، واش هو يعني ولا نخرجوا نعيطوا برك كيما سرى العياط في ما عندوش غد سون لوندومان، يعني بلا مشروع بلا إلى آخره. دونك المسألة الأساسية هي هذه، لخاطر سينون كيما قلنا نسيبو روحنا نعيطو بالك في المصلحة نتاع جهة معينة اللي بالك حنا رانا ضد المشروع نتاعها. دونك سادير لازم الوضوح يكون هنا، ونظن باللي الفائدة نتاع هذا النقاش على حسابي أنايا، الفائدة نتاعو هو توضيح هذه المسألة، خاطر هذه مسألة جوهرية، هذه مسألة أساسية، باش ما نقعدوش في هذه الحلقة المفرغة، يعني نبداو شوية نفكروا يعني بصفة أعمق. دونك دو سو بوان دو فيو J'aimerais déjà rappeler que la notion de crise en Algérie, elle a commencé depuis longtemps. Je veux dire, le régime, la crise du régime en Algérie, etc. Pas seulement en Algérie, mais en Algérie, depuis la guerre de libération, si ça se trouve, puisque Bdine a déjà machine Tafrin à la 54, on va dire machine Tafrin sur Soma, on va dire machine Tafrin sur Ben Khadda ou GPRA ou Ben Bella ou l'armée, etc., etc. Donc, Nizam qui a tout le temps fait au Zahar Mouta'azima, même s'il a eu quelques moments, etc. Il y a l'indépendance, on a vu, blé, yani, en 65, il fallait changer, et même Boumediene, je veux dire, c'était un régime relativement de crise. Boumediene a gouverné les premières années, Bordel-Dokazol, jusqu'en 71, où il a lancé ses projets, à partir de 70-71, disons les grands projets, et vite, ça a été l'essoufflement, dès 74-75, on a vu qu'il était contesté, etc., jusqu'à sa mort en 78, donc c'est-à-dire, et Chedli, et etc., et ensuite, on sait, les années 90, et où l'année, yani, l'azma, il y a azma, نقدروا نقولوا يعني هيكليه ستركتورال في الحقيقه، على خطر كاين نقاش حول الطبيعه نتاع النظام الى اخره، يعني من ناحيه مش في الجزائر برك، يعني في بلدان مثل الجزائر، بلدان المهيمن عليها، يعني لي بيي اوبريمي لي بيي دوميني اكسيتيرا، يا نقاش طويل يعني في هذا الميدان، سي با مون بروبو. دونك جيساي جوست دو دير سا اي كو دوبي لاريفي دو بوتفليقه. Bouteflika est arrivé déjà pour résoudre une crise, c'est comme ça. Il a dit il y a la crise ou que le Moussalaha al-Wataniya ou la concorde civile pour résoudre une crise. Donc c'est-à-dire il est venu dans un contexte de crise, mais depuis qu'il est venu, la crise n'a pas disparu. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit il y a crise. Et même dans le cadre du régime, même les représentants de Bouteflika, ils disent attention, Loukan Kda, ou Loukan Manvonté, ou Chalet Bouteflika, ça va. Donc ça veut dire ça va pas. Donc ça veut dire tout le monde, donc y compris le pouvoir lui-même, et dans cette logique. Et en réalité, c'est quoi la crise? La crise du régime algérien est avant tout, je veux dire, s'exprime avant tout, indépendamment d'autres éléments, parce que je ne suis pas ici pour faire de la sociologie ou des choses comme ça, mais avant tout pour exprimer ce que je considère comme les idées les plus importantes d'un point de vue politique. Donc, c'est une mis'ala, il y a azmet tkouin la bourgeoisie al-jazairia, ou azmet wada le namot الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر اللي متجه نحو النظام الليبرالي. سي لا كريز اون رياليتي دي موديل ليبرال كونترييرمون لا بروباغاند اللي راهي صايره في الجزائر. وهذا الازمه علاش؟ على خاطر التكون تاع الطبقات الاجتماعيه في الجزائر، يعني لي كلاس سوسيال اون الجيري، سي اون كونستركسيون ان بو جالي دير با بريسك ارتيفيسيال، سي تادير بار رابور او بروسيسوس اللي عرفناه في البلدان المسمات المتقدمة الأخيرة. والبرجوازية يعني في الجزائر ماشي هي في وقت فرنسا اللي رفضت السلاح وحررت الجزائر. الجزائر تي ليبيري باغ سو دومبا باغ لا بيزانري بوفر باغ لي بليبيان اكسيتيرا، مي جو دير دي كوش با دو تو بورجواز، بيسك دو توت فاسون فرنسا ما سمحتش بلي تكون برجوازية كبيرة في الجزائر بسكو تي ان كولونيزاسيون دو بوبلمون اكسترا مي انكور اون فوا جو فو با مو جو باس فيت بلي هذا التكون جعل بلي البرجوازية ولا يعني لا كريستاليزاسيون دي كلاس سوسيال اون الجزائر C'est un phénomène à examiner qui n'est pas propre à l'Algérie. Encore une fois, c'est les pays, je veux dire, Menouana. Mais c'est-à-dire que c'est important de le comprendre parce qu'en réalité, là, j'essaye de revenir à l'actualité. Les rahm m'a Bouteflika, ou les rahm m'a Bouteflika m'a Al-Ghdiri, ou les rahm m'a Benflis, ou les rahm m'a Igoulou, ou les rahm m'a Sidi, ou des gens comme ça. En général, et ça, c'est une idée fondamentale, à mon avis, à soulever. Ils sont tous d'accord sur le programme libéral. Il faut bien le rappeler, il faut bien le dire. Donc, marahomch fi tanaqud haqiqi ala al-mustawa al-ikhtiyarat al-iqtisadiyya. Yqdru ykunu mahomch mtwafqin sur le rythme de la libéralisation. Du processus de libéralisation. Quel ligoulou, il faut tout privatiser maintenant. Je pense que Bouteflika ou Jma'atou, ils sont en train de dire non, blaqal, etc. On ne va pas quand même semer une protestation qui peut nous échapper, qui peut prendre d'autres allures, etc. Donc là-dessus, ils peuvent ne pas être d'accord sur les rythmes du processus libéral. Ils peuvent ne pas être d'accord sur est-ce qu'il faut enlever les transferts sociaux ou les subventions, les remèdes de l'hlib ou le khabz ou la morre assiette, comme d'ailleurs on nous le promet, on nous dit attention, morre assiette, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est ce que nous dit. Et eux, il y a des autres. Donc, yani, le mas'al al-assassiya, rahi, hna ya al-qadiya. Et donc, de ce point de vue, nous sommes dans une situation où le régime Bouteflika qui est venu, le Bouteflika qui est venu en 99, le pouvoir tel qu'il a été organisé par le régime autour de Bouteflika, ça a commencé par, déjà, il a été élu de façon affaiblie, etc., souvenons-nous, en 99. D'ailleurs, il disait, je refuse d'être trois quarts de président, etc. Mais de cette période, du début, le rapport de force au sein du pouvoir a changé, au point où on parlait d'ailleurs de dérive monarchique. Oui, c'est-à-dire Bouteflika est devenu pratiquement un monarque à partir du deuxième, voire du troisième mandat avant qu'il ne tombe malade. Où il a concentré tous les pouvoirs, ce qui s'est passé en 2008. En 2008, c'est le Dostor, où il y a eu avec chef de gouvernement, le premier ministre, etc. Là, il y a eu une concentration des pouvoirs au sein de Bouteflika, etc. Et donc, c'est-à-dire cette organisation autour d'un personnage, etc., c'est un petit peu, c'est-à-dire Bouteflika qui voulait jouer ce qu'on appelle, dans le jargon, je veux dire, un concept plutôt marxiste, etc., connu, c'est le bonapartisme. Yani, ouah, nibni ou nivam, autour d'un personnage, ou avec le personnage, il est connu au-dessus des classes sociales, au-dessus des partis, au-dessus des luttes, etc., et c'est lui qui décide et qui concentre tous les pouvoirs, etc. Mais la dérive monarchique, n'ta nivam, tassalot, n'ta Bouteflika, يعني البونابارتية اللي مدتها يعني للنظام هي فيت بونابارتية دخلت في أزمة دخلت في أزمة أترافيغ دخلت في أزمة أترافيغ المرض نتاع بوتفليقة يعني كي داروا لو كونسونتراسيون دو بوفوار عند بوتفليقة كي بدلوا الدستور في 2008 و 2009 وكذا وكذا إبان زدنا شوية بوتفليقة مرض إذن ولا كاين أن بونابارت مي أن بونابارت كومبليتمون أفيبلي أن بونابارت كومبليتمون إيفاسي إكسيتيرا إي سي دوطخ كي سون ريكلام ألوغ l'image bonapartiste mazalt mawjouda lel'an parce qu'ils disent oh Bouteflika galo fi kol plasa ykhi tous les ministres lazem ykoulou Bouteflika même wahed yrouh inaugurer je ne sais pas na yrouh inaugurer j'allais dire hachak mouhachak drkom des toilettes publiques il doit dire hada fi itar barnamej voilà c'est en train de vivre des trucs comme ça donc c'est à dire on veut se référer à une image d'un Bonaparte qui est au-dessus de tout le monde etc. Mais c'est-à-dire que ce n'est plus Bonaparte à la Boumediene, ce n'est plus Bonaparte même pas à la Chedli ou d'autres. Donc c'est un Bonaparte là complètement affaibli par la maladie, etc., qui est dévasté. Et on essaye de le maintenir. Pourquoi on essaye de le maintenir? On essaye de le maintenir parce que, justement, la formation du pouvoir en Algérie à travers ce que je rappelais tout à l'heure, le processus de cristallisation des classes, etc., يعني ما لحقوش إلى توافق. Il n'y a pas un consensus au sein du pouvoir et de cette bourgeoisie naissante, le patronat, tout ça, sur un personnage précis. Et pourquoi? Parce que dans un pays comme le nôtre, l'État, qui reste justement un État qui intervient sur la sphère économique, il y a encore un secteur public, etc., il y a encore... donc c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie fait que l'État est censé être un État providence, un État social, etc. Donc, j'ai l'équipe qui est en train de se faire, qui a le pouvoir politique du moment, إبا هذيك الفرقة هذيك هي اللي راهي رايحة شغل تستحوذ أكثر على القطاعات الاقتصادية نتاع البلاد لصالح دونك على خطر هذا البرجوازية. ما ننساوش باللي تربات وكبرت وخلقت في ظل الدولة دون الامبر دو ليطا دوبي بومدين جو دير يعني هاد البرجوازية البريفي الى اخره. ودونك من بعد صرا الانفتاح البروسيس دانفتاح في السنوات الاولى كيما بومدين قالوا نفتحوا شويه لو داروا ميم رياض الفتح سماوه الفتح بوغ سا داير سي ان سامبول بوغ سو كي لو سا با اون 82 ولا اي الانفتاح ايزون كوبيي السادات في مصر سا سابلي الانفتاح في مصر كي جا السادات ابري جمال عبد الناصر بور جوستمون اوفغيغ ا دغوات ليبراليزي بريفاتيزي اكسيتيرا et la sadatisation, comme on l'appelait d'ailleurs à l'époque, l'infitah, etc., menait vers un processus libéral, évidemment. Mais le processus libéral en Algérie, il est bâti sur les capacités de l'État de gérer, justement, les équilibres sociaux, etc. Et ces équilibres sociaux, etc., sont bâtis sur sa capacité financière, qui est tributaire et dépendante du pétrole. Et donc, le pétrole, c'est les hydrocarbures. Le prix du pétrole et des hydrocarbures est une donnée fondamentale aussi dans la compréhension des choses. Et là, par exemple, nous avons vécu les grandes crises après la crise des prix du pétrole de 86. On a vécu maintenant, depuis 2014, une situation, même si elle est atténuée par les quelques réserves et par le maintien quand même du pétrole à un niveau plus ou moins, je veux dire, qui peut permettre moins de casse. Mais c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose une donnée essentielle. Et donc, cette rente, comme l'appellent certains, etc., eh ben, elle est utilisée par l'État, etc., dans le but aussi de permettre une accumulation, comme dirait Marx, primitive du capital. Et donc, les capitalistes algériens, entre guillemets, donc avec tous les tares que l'on sait, c'est vivre le doula, donc drame de doula. C'est pourquoi كي كانت واحد ليكيب واحد اخرى في السلطه قويه من بين الوجوه القويه تاعها سيتي جينيرال توفيق ولا ناس من هذا النوع ونزار اكسيتيرا اي با سيتي ان اوتر كلون بيسكون بارل دو كلون دو فاكسيون او بوفوار اكسيتيرا كي بروفيتي اي افيك لو كلون مانوس ا شانجي بان سي ني بلو لو ميم كلون لي ميم زونفور اي دونك سي دوتر كي اون بروفيت اي سا دون انسويت اون تراديكسيون رب حداد كي سو كي سو اكسيتيرا مي اون رياليتي لي زان اي لي زوتر اي سون دون لو بروجي فوندامونتالمون دونك ليبرال باسكو سو كي سو ديز كي سون برودكتيفيست ولا برودكتيف ان رياليتي ايز ايتي اوسي امبورتاتور ا ما كونيسونس او موان هونداي او موان sans parler d'autre chose. Et ceux qui sont généralement dans l'opposition, disons, démocratique, etc., ils sont aussi dans ce projet libéral. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à dire et à répéter. Il s'agit du même projet libéral. Et le projet libéral, ce n'est pas les intérêts des travailleurs, ce n'est pas les intérêts de la majorité écrasante du peuple algérien. Et il se trouve que ces intérêts de la majorité du peuple algérien et des masses populaires en Algérie, مازال ما لحقناش باش يكون عندهم تعبير une expression plus ou moins forte dans la société et qu'il nous faut construire absolument et c'est impératif plus que jamais. Donc هذه المساله الاساسيه في هذا الوضع السياسي اللي رانا عايشينه اليوم. Et pour revenir aux élections, les élections, on les a vues. J'ai cru comprendre que lire que à travers la presse que Nasser Djabi il disait la semaine passée que les élections ne constituent pas un élément de changement, évidemment. D'ailleurs, je me souviens, on le disait, ça fait très longtemps. L'UNTV officiel m'a invité, l'unique fois en 2012. Je parle de l'UNTV public. Eh ben, quand on a exprimé en direct en disant que les élections législatives à l'époque ne constituaient pas un élément de changement, etc., alors on dit, ah bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, il faut construire le rapport de force politique pour le Moujtama. Et c'est ça. C'est-à-dire, les élections ne sont qu'un faire-valoir, qu'un prétexte, qu'une formalité pour faire continuer le régime. Et ce n'est pas... je dis, mais j'ai fait avril 2019, les goulous, la continuité qu'en 14, en 19, même en 92, quand on a fait des guerres pirchèdes, l'équipe qu'on a, etc., c'est pour permettre aussi une continuité du... du système, mais aussi même avant la continuité, يعني نقدروا نسيبوا يعني السلسله الخيطر تاع السلسله الاستقلال يعني comment le système essayait de se maintenir et continuer. Et en réalité, يعني les rapports de force dans la société aujourd'hui, on voit bien que on a de gros problèmes. C'est-à-dire que la décennie avec des années 90 et ses ravages, يعني qu'il y a une destruction, يعني تحطيم في الحقيقه للقوى الاجتماعيه اللي عرفناهم من قبل. Déjà l'effondrement de l'URSS, تاع الاتحاد السوفيتي والبلوك هذاك دو لات والبلدان الاشتراكيه, ديجا هذاك في بدايه التسعينات خلق يعني جو جديد ولا كونتكست جديد على المستوى العالمي في الحركه العماليه وفي الحركه الشعبيه. سي بوكو جوردي الحركه العماليه تاع القرن العشرين ماهيش تكزيستي, خلاص راحت. On n'a plus le mouvement ouvrier du XXe siècle qu'on a connu avec ces structures, avec ces trucs. Et nous n'avons pas encore construit le nouveau mouvement ouvrier ou la populaire, etc., qui fait face. Et donc on est dans cette situation où il n'y a pas le pouvoir ou le haraka qui était Bakri, ou pas le haraka qui était Mazel. Donc on est dans cette situation qui fait justement qu'on a toutes ces difficultés. Même s'il y a des processus nouveaux, on a un chauffeau. يعني رغم واش كنت نحكي من قبيل على يعني التوجه الامبريالي على المستوى العالمي اي كومبري لي ديرنيي ديفلوبمون فينيزويلا اي ايور مي اوسي دون دوتر دون دوتر ريجيون مالغري لو ركول دو لا فاغ هذيك دو غوش اللي شفناها في امريكا اللاتينيه دوبي ديزون لو شافيزم ديجا لا فان دي زاني 90 98 99 début des années 2000 etc. Bon, il reste Morales, je crois, en Bolivie. On a eu récemment, en Mexique, l'élection de président d'un peu de gauche, etc. Mais Cuba, qui reste évidemment dans le processus que l'on sait, c'est-à-dire des pressions, etc., impérialistes qui existent. Mais sinon, c'est-à-dire ceux qui échappent à la domination impérialiste, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, etc. Je pense que si. Je pense que pour l'Amérique latine, de toute façon, je crois que c'est Chomsky là, qui disait quelque chose comme ça, que de toute façon, les USA, l'impérialisme américain, ne pourra plus disposer de l'Amérique latine comme ça court, comme dans les années 70, comme dans les années 80. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des processus qui sont déroulés pendant les 20 dernières années et qui, en réalité, il sera beaucoup plus difficile, pas dans la forme, parce qu'il y a des pouvoirs de droite en Argentine, au Brésil, etc., mais dans dans la société réelle, etc., et dans les luttes réelles. Donc on espère des résistances, mais il va falloir construire. C'est pourquoi il faut justement, comme on échangeait avec d'autres amis et camarades, qu'il faut construire donc des mouvements de solidarité, des mouvements de solidarité avec la Palestine, avec le Venezuela en ce moment, mais sans oublier juste à côté, Sahara occidentale, etc. C'est-à-dire, il va falloir reconstruire petit à petit ces pôles de résistance et de solidarité. Par ailleurs aussi, on a vu le recul, certes, de ce qui a été appelé le printemps arabe, et qui a été une tentative révolutionnaire en Tunisie et en Égypte, ce qui n'était pas le cas en Libye et en Syrie, ça c'est clair. Même si en Syrie, il y a eu des balbutiements révolutionnaires au début, c'est-à-dire au début, c'était le peuple syrien, la jeunesse, les travailleurs, etc., qui, et ensuite, ça a pris une autre tournure. Mais en Libye, on sait très bien que c'est une intervention de l'OTAN, c'est une intervention, etc., mais ensuite, en Syrie aussi, c'est une tentative où l'OTAN et compagnie, les pays impérialistes, qui essayaient donc d'imposer les changements qu'ils voulaient imposer, même s'ils n'ont pas réussi. Mais en Tunisie et en Égypte, on a vu que, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des mouvements importants. Alors en Égypte, ça a donné Sisi, le général, une répression atroce avec les tentatives de l'extrême droite, j'allais dire entre guillemets, islamiste, etc., pour récupérer. Mais en Tunisie, je crois que c'est une avancée. Je crois que c'est une avancée, même s'il y a de gros problèmes, c'est pas ça le problème. Mais c'est une avancée dans la mesure où il y a un peu plus de liberté démocratique déjà en Tunisie. Un peu plus de liberté démocratique que sous Ben Ali, évidemment. Donc, c'est-à-dire, il y a une avancée. Donc, il y a de quoi espérer que les luttes peuvent s'organiser mieux, peuvent s'exprimer mieux, et donc se consolider, etc., pour l'avenir. Mais cette vague qui a donné l'Amérique latine, qui a donné le printemps arabe, qui a donné même au lendemain de la crise de 2007-2008 avec la crise financière, ça a donné le mouvement des indignés, Il est chevau dans le monde, notamment en Espagne, notamment ailleurs, à Madrid, notamment occupé, le mouvement occupé de Wall Street, etc. Tout ce mouvement-là, c'était un moment. Et là, je crois personnellement que nous sommes à la veille de la fin de cette vague, mais qui n'est pas très lointaine. Il n'est pas très lointaine finalement, comme le printemps arabe, etc. Et il y a comme si un cycle nouveau est en train de s'ouvrir, de lutte, etc. et de mobilisation. Donc on va voir. Moi, peut-être, certains me diront, tu es un peu optimiste, voilà, mais je crois que quand on examine les choses, bien sûr, les gilets jaunes est un symptôme de ce nouveau cycle. C'est un nouveau cycle parce que ça se passe déjà dans une métropole avancée, etc., développée, etc., en France, et avec donc ces possibilités de retomber sur d'autres pays et dans le monde. Et puis ça inspire, comme on est en train de le vivre, même si, bien sûr, il ne faut pas trop non plus... il faut continuer à être réaliste, mais je crois que c'est des indices quand même intéressants à prendre en compte comme des nouvelles possibilités, donc un nouveau cycle de lutte, etc., qui peut s'ouvrir, parce que de toute façon le modèle néolibéral est en train de, comment dirais-je, d'aller encore plus loin dans sa dictature qui impose des inégalités sociales, qui impose plus de domination des peuples, plus de d'autoritarisme et de recul sur les libertés, etc. Et donc ça veut dire que cela ne peut qu'aller vers aussi réveiller des résistances et des luttes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, comme en Algérie, مثلاً في الجزائر, ماهمش النضالات اللي خصو. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2-3 jours, là, il y a eu le port d'Alger qui a débrayé. Il y a une grève pour les salaires. Les enseignants, à travers l'intersyndicale notamment, etc., continuent à se battre. Mais récemment, on a vu le Hadjar, où les gens étaient contre la pourriture de certains représentants même de travailleurs, etc. Donc, c'est-à-dire, on est en train de voir des luttes. À Béjaïa, il y a eu d'autres luttes dans telle ou telle entreprise, mais aussi un peu partout ailleurs. On est en train de voir des luttes, mais aussi des répressions, comme à Air Algérie, pour ceux qui savent, il y a des licenciements de syndicalistes, etc. Donc il y a des luttes. Il y a des luttes de la jeunesse contre le chômage dans telle ou telle ville, ou au sud, comme à Ouargla ou ailleurs. Il y a des luttes sociales, évidemment. Mais ces luttes sociales ne se traduisent pas par un projet politique. Voilà notre grand problème. Comment ces luttes sociales, comment ce front social... Parce que ces luttes sociales et ce front social, c'est lui qui exprime généralement les intérêts de ceux d'en bas. Et c'est ça le clivage. On est dans le cadre d'un combat de classe sociale, que les intérêts de la classe ouvrière et des masses populaires n'est pas celui ni de Rabab, ni de Haddad, ni de tel patron, ni de tel patron. C'est les intérêts de ceux d'en bas et ceux qui veulent... nous faire croire que les travailleurs de Civital soutiennent le patron, ben on va leur dire non, c'est pas vrai. La preuve, c'est que le patron licencie les travailleurs de Civital dès qu'ils veulent faire une section syndicale, comme on le sait, et pas seulement Civital, même ailleurs, parce que les intérêts, de moi, sont fondamentalement donc contradictoires. Et là, c'est-à-dire pour revenir un peu à la question du contexte électoral pour les élections. Donc les élections du 18 avril, évidemment, ne constituent aucunement un changement. Et ne sont en réalité qu'un aspect formel qu'on va nous imposer. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué pour eux toujours, parce qu'au fur et à mesure, les choses se compliquent. Donc ce n'est pas comme en 2014, où Benflis semblait jouer le rôle, on l'a rappelé, jouer le rôle donc de ce rival possible pour des intérêts donc de tel courant dans le pouvoir par rapport à il y a eu donc le modus vivendi, comme on l'avait appelé à l'époque, c'est-à-dire une sorte de pause, une sorte de trêve dans leur guéguerre. Ils ont dit on arrête parce qu'on doit quand même sauver le système, c'est-à-dire qu'on soit comme ci ou comme ça, on est quand même le système, on va maintenir Bouteflika, ou ils chauffent même bête. Et ils ont maintenu Bouteflika, les maillards d'Armaya, etc., etc., sous perfusion si vous voulez, etc. Mais on a maintenu cette image dont je parlais tout à l'heure. Et ils ont différé en quelque sorte l'affrontement. Donc peut-être qu'on est plus proche de l'affrontement qu'en 2014. Mais est-ce que l'affrontement est vraiment possible, etc., dans le sens, je veux dire, d'un grand affrontement? Non, c'est pas évident, non plus. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des possibilités de s'entendre, etc. Mais il y a effectivement des luttes, donc absolument, qui s'aiguisent au fur et à mesure. Et je crois que cette fois-ci, si j'en ai bien compris, donc l'RDRI, c'est une candidature qui joue le rôle disons, plus soutenu, j'allais dire, puisque ouvertement il dit qu'il est soutenu par Brab et par des intérêts privés, etc., parce qu'il l'assume, etc., donc par rapport à Benflis, c'est-à-dire leur délire beaucoup plus, c'est-à-dire cette tendance de la faction au pouvoir, qui est représentée aussi par des gens qui sont dans le Parlement, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans, entendons-nous bien, eh bien, c'est-à-dire, il y a donc cette... bon. Mais ça, il va falloir le mettre dans son contexte. Encore une fois, il faut comprendre que cette guéguerre n'est pas la guéguerre des intérêts des travailleurs et des masses populaires en Algérie. Ce n'est pas nos intérêts. Nos intérêts, c'est de se battre pour défendre nos acquis sociaux. C'est de se battre pour défendre notre droit et nos libertés. Les droits et les libertés démocratiques, qui sont avant tout pour nous plus importants que pour les milliardaires et la force de l'argent dans ce pays. Donc nous avons besoin de dire qu'en Algérie, nous avons besoin de construire un front, nous avons besoin de construire une force qui se distingue par rapport à cette guéguerre, qui n'est pas la nôtre, en quelque sorte. Et la guéguerre qui est la nôtre, c'est celle de dire « Je soutiendrai le Rdélé ou la Lalal, mais en fonction de ce qu'il propose comme programme. Si il me donne ce programme, je finis le bouquin qu'il faut soutenir le Rdélé. » C'est pas normal. Le gars n'a pas encore exprimé son programme. Et d'ailleurs, Bouteflika, qui paraît-il a un programme, personne ne le connaît. Mais c'est-à-dire, tout ce qui se passait, c'était dans le programme. Et alors que c'est pas comme ça. C'est-à-dire, donc, il va falloir avant tout se battre pour imposer une vision et un programme politique, un projet politique qui représente les intérêts des travailleurs. Un programme résolument contre les inégalités sociales. Un programme qui offre des perspectives économiques et sociales pour la majorité du peuple algérien, particulièrement sa jeunesse en matière d'emploi et d'émancipation. Un projet, et ce projet est possible. Ce projet est possible, non seulement par rapport, aux potentialités de l'Algérie, mais il est possible par la mobilisation du peuple algérien, des masses populaires algériennes, pour construire un projet qui permette aux Algériens et aux Algériennes de vivre dignement et certainement mieux. Mais cela suppose qu'il y ait une rupture. Il y a une rupture avec le projet libéral. S'il n'y a pas de rupture avec la libéralisation avec le projet libéral, qu'est-ce qui va se passer? On nous l'a dit à la télévision, au Yahya et d'autres, il y a quelques jours encore, que après la présidentielle, ils vont accélérer le projet libéral. Ils vont l'accélérer. Et il se trouve que malheureusement, pour nous, il n'y a pas que la clique qui a le pouvoir politique en ce moment, ou ses rivaux qui sont dans le même projet, mais même dans l'opposition, je ne sais pas, moi j'ai appris comme tout le monde que, je ne sais pas, un candidat qui s'appelle Fethiras, par exemple, du MDS, qui semble-t-il défend aussi, semble-t-il, et j'enlève les guillemets finalement, qu'il faut donc éliminer les subventions, donc les transferts sociaux, des choses comme ça, etc. Donc, comme quoi, c'est-à-dire que le projet libéral, c'est-à-dire au niveau idéologique, l'idéologie libérale est en train de faire main basse sur tous les discours, et donc y compris ceux qui parfois, parce que ils sont du côté des libertés démocratiques, là, ils sont de gauche, non? Être pour les libertés démocratiques, je ne sais pas, la bourgeoisie, historiquement, je veux dire, par rapport au féodalisme, il y a deux, trois siècles, j'étais un peu plus libéral, d'ailleurs, d'où le terme libéralisme aussi, je veux dire, il n'y a pas que le libéralisme économique, il y a aussi ce terrain-là, donc être de gauche, non, être de gauche, c'est les intérêts de la classe ouvrière et ses alliés, etc., c'est ça, être de gauche. Et donc, ça veut dire que, attention, ceux qui sont dans le projet libéral, et ceux qui ont le pouvoir et qui comptent la continuité, donc la clique actuelle autour de Bouteflika, cinquième mandat, si ça continue comme ça, ils comptent accélérer le processus. D'ailleurs, et ils ont commencé par les carburants. Les carburants, ils ont triplé le prix des carburants depuis quelques temps. Enfin, au moins trois fois, ils ont fait des augmentations. Mais là, pour le lait, pour la semoule, pour le pain, pour etc., etc., ils comptent aussi s'en occuper après 19. Donc à partir de la fin 19, début 20, etc., il va y avoir des attaques comme ça. Il va y avoir des attaques contre le secteur public. Il va y avoir des attaques contre les petites, toutes petites barrières de protectionnistes, entre guillemets, parce que ce n'est pas aussi vrai que ça, représentées par ce qui a été appelé le patriotisme économique à travers la loi de finances de 2009, avec la règle 51-49 et le credo, etc. Donc, ces choses-là, ils vont être attaquées et disparaître. Le secteur public va être affecté, il va être, parce que l'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu du libéralisme, c'est comment privatiser l'État à notre profit, nous le clan Feltani ou là nous le clan Feltani. C'est de cela qu'il s'agit, et avec évidemment la mainmise de l'impérialisme, parce que l'impérialisme, les puissances impérialistes, français ou américains ou maïchbet, ils sont là pour dire « Ah, si vous privatisez ça, moi aussi je dois prendre ma part ». C'est comme ça que ça se passe. c'est-à-dire notamment كما قال لك في الميدان تاع الغاز والغاز كما يقولوا واحد قال لهم عندنا الغاز والغاز دونك سي 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 leur bilan on le connaît leur bilan on voit bien que c'est-à-dire quand la clique au pouvoir te dit voilà on a sur le plan économique eh ben ils ont dilapidé je sais pas combien de milliards de dinars on parle au moins de 1000 milliards de dollars là n'est-ce pas mais en réalité quand on voit les résultats ben on voit bien sûr il y a eu des logements qui ont été distribués bien sûr il y a eu des choses on va pas nier ça c'est il faut pas être con bien sûr il y a eu ça mais c'est-à-dire à quel prix et dans quelle qualité et avec quelle durée avec quelle surfacturation etc etc quand on nous parle de quand on nous parle de d'industrialisation ben quelle industrialisation on dit la propagande depuis quelques un mois ou deux sur Belé, on exporte au Mauritania, etc. Mais quand on voit réellement c'est quoi, c'est de la pipitia par rapport aux moyens de l'Algérie. Quand on voit l'industrie automobile, Belé, il s'agit d'un assemblage, etc. On faisait un peu mieux dans les années 70. سبعينات في الجزائر كنا نخدموا الكاميو كنا نخدموا الترولي كنا نخدموا مونتاج مي بصح لو طو دانتيغراسيون ايتي ميور لا بار دو لاندستري اون الجيري لحقت ا دي طو كوم ميم تري ابريسيابل ان مومون دوني دون لو بي بي الجيريان يعني كدا بارابور دركا ورانا 6 و ميم با جو كوا اوتور دو سا ميم سي فون اون كونت بروباغاند اوتو مي ان رياليتي دونك يعني يعني التصنيع ما كانش Et yani, ils avaient de l'argent, donc c'est-à-dire quelqu'un à qui tu donnes 1000 milliards de dollars, au moins il va te faire ça. Il y a un assemblage, un truc, etc., pour la galerie, en quelque sorte. Mais en réalité, ils n'ont rien construit. Et c'est encore une fois, c'est-à-dire c'est une preuve de cette incapacité historique, dans un pays dominé par l'impérialisme, de se développer dans la voie libérale. On ne peut pas se développer dans un pays dominé comme l'Algérie, dans la voie libérale, à l'ère où il y a des pays qu'on appelle impérialistes, au moins le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. Mais quand يعني les boulden اللي تقدموا في هذا الميدان ما تقدموش dans la voie libérale. Prenez la Chine, eh ben c'était pas dans la voie libérale qu'ils ont pu se développer. Et jusqu'à présent, ils sont encore comme le Gabriel Bolden. Tu prends la Corée du Sud, c'est autour d'un secteur d'État, etc. qui se sont construits. Faut le savoir. Parce qu'il y a des mensonges, etc. Tu prends le Brésil, bon. Donc c'est-à-dire, mais je ne vais pas faire le topo là-dessus, mais donc dans des pays comme le nôtre, il n'est pas possible de se développer. Donc ce qui est possible, bien sûr, même les pays impérialistes, il y a des segments de industriels, etc., qui peuvent être au fur et à mesure abandonnés à d'autres. Les investissements, dit les investissements étrangers, les IDE, ça veut dire là où ils peuvent faire affaire, et ils peuvent faire affaire là où il y a les bas salaires, comme ils l'ont fait en Chine, en Asie, etc., parce qu'il y a les bas salaires. Mais, et donc en Algérie, voilà, c'est-à-dire ce projet libéral qui se base sur les investissements, mais donc ça veut dire les bas salaires. Vous savez qu'en Algérie, le SMIC n'a pas bougé depuis c'est la 9e année, où le SMIC n'a pas bougé, il faut le savoir. Et ça veut dire que le pouvoir d'achat en Algérie a reculé de façon... Hier, je lisais un article sur les luttes au Bangladesh, et j'ai appris que les enfants, je ne sais pas, au Bangladesh, ils sont payés 83 euros par mois. Et quand tu fais le calcul 83 euros, je crois que ça fait le SMIC ou Tadzaïr, des 8000 dinars. Donc, c'est-à-dire, faut savoir qu'on, et ça veut dire qu'on est dans, si c'est 100 euros, ça fait 220, le machin, donc ça veut dire qu'on est dans une situation où le pouvoir d'achat est en train d'être écrasé en Algérie, et il compte continuer à le faire, au nom de l'USMA, etc. Pourquoi? Parce que c'est, le coût qu'il khdam, et qu'on rhis, les investisseurs, ça les intéresse. Parce que c'est le coût ça fait partie des coûts du travail, et c'est ce qu'ils veulent voir développer en Algérie. Donc, le cinquième mandat, c'est une continuité formelle du régime, donc il n'y a ni élection démocratique et honnête, ni transparente, ni qui peut constituer un moyen du changement. Donc, ça c'est évident. Il reste à dire ensuite que, plus important encore, c'est leur projet de l'après-élection. C'est une accélération du processus libéral très grave qui nous attend, et il va falloir justement, c'est-à-dire en faire un sujet important pour résister dans l'avenir. Et donc cet impératif, même si on est, je veux dire, en Algérie, on est un peu pas tout à fait donc dans une situation qui nous permette d'aller un peu plus vite construire ce rapport de force et résister. Et pour nous, le PST, c'est cela qu'il s'agit, c'est-à-dire l'enjeu, c'est comment progresser sur la construction de la résistance sociale, la résistance des travailleurs, la résistance politique aussi. Comment fédérer donc les différentes énergies. Et à ce sujet, pour un peu aller vers la conclusion, pour nous, la question de la défense des libertés démocratiques devient encore plus une priorité, parce qu'on peut, par-delà les différences donc idéologiques et d'intérêts de classe, etc., il est possible, sur les questions démocratiques, si évidemment bien définies, etc., avoir une plateforme démocratique, sorte de front démocratique, qui dit il faut qu'on ait le droit de s'exprimer, il faut qu'on ait le droit de manifester dans ce pays, il faut qu'on ait le droit de nous organiser, il faut qu'on ait le droit d'accès aux médias publics, il faut qu'on ait le droit, etc., il faut qu'on ait le droit de faire grève. Ce n'est pas normal que les grévistes sont tout le temps convoqués devant un juge. Ça veut dire qu'il y a une remise en cause des droits. Donc formellement, c'est inscrit quelque part, et ensuite tu as des lois. Ben, on a donc des lois qui limitent tous ces droits, qui vident donc ces droits fondamentaux, etc. De leur bon. Donc on a besoin de ça, et ça normalement, ça pourrait intéresser un certain nombre de courants et de forces, même s'ils ne sont pas du même bord idéologique. Donc sur les questions démocratiques, il est possible d'avoir une plateforme et de dire tant que ces droits ne sont pas respectés, ça veut dire les élections, etc. Est-ce que ça veut dire ne pas participer aux élections ? Pour nous, c'est une question pas fondamentale. C'est-à-dire que nous pensons que les élections, dans les conditions d'un État scélérat, etc., ne sont pas donc un moyen de changement, et donc on ne compte pas sur les élections pour changer les choses. Est-ce que ça veut dire ne pas les utiliser comme tribune, etc., pour construire des choses, pour faire entendre, etc. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça nous arrive de participer dans des élections, comme ça nous est arrivé de ne pas participer selon les contextes, selon notre lecture du contexte. Donc c'est une question purement tactique pour nous. Ce n'est pas une question stratégique, les élections. Cela dit, ça nous intéresse, dans la mesure où les élections, c'est quand même... Il y a un pouvoir qui va nous être imposé à nous, des choix économiques et sociaux, etc. Donc ça nous intéresse à plus d'un titre. Donc de ce point de vue, voilà, donc pour les élections. Pour l'instant, le PST n'a pas définitivement décidé d'une position de participer ou de ne pas participer. C'est dans les quelques jours qui arrivent, le PST va rendre public sa position, disons, à ce sujet particulièrement. Tout est possible donc, même si je pense que le contexte actuel est... en fait, c'est-à-dire quand on voit les conditions dans lesquelles cette élection est en train d'être présentée, c'est des conditions absolument, je veux dire, inacceptables. Bouteflika, on a mis à sa disposition, comme d'habitude d'ailleurs, même un peu plus, c'est-à-dire tous les moyens de l'État. Vous savez que sa déclaration de candidature il y a une semaine, elle a pris 24 minutes à la télévision algérienne, c'est-à-dire ce qui n'est pas le cas des autres, etc. C'est pas normal, je veux dire. Donc ça, c'est pour donner une idée. Donc c'est-à-dire il n'y a aucune réalité. En réalité, il n'y a aucune égalité des chances, il n'y a aucune loyauté, il n'y a aucune honnêteté. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il ne faut pas voir les choses uniquement à l'occasion des élections. La question, quand on dit que ce n'est pas démocratique, ce n'est pas uniquement par rapport techniquement à l'organisation de l'élection, la commission indépendante ou pas, comme disaient certains, il faut une commission indépendante. Eh ben, tu as la commission indépendante avec Derbel à la leçon. Et alors, je veux dire, il paraît que c'est indépendant, c'est ce qu'il dit, hein, je veux dire, bon. C'est pas ça. La démocratie, ça veut dire au moins, etc. On a eu le droit de manifester, de s'exprimer, on passe à la télé, tout le monde, je veux dire, etc., les différents projets, etc., il faut que le peuple algérien qui va voter, parce qu'on oublie que c'est le peuple qui doit voter, on oublie que c'est le peuple, Chebel de Zahiri, dans ses différentes tendances, etc., avec sa conscience, etc., qui va choisir, et pour choisir, il faut qu'il ait accès à tous les points de vue, il faut qu'il ait accès à tous les programmes, il faut qu'il ait accès à tous les projets. Cela suppose que les différents projets, différents programmes s'expriment et s'expriment massivement, etc., dans les médias, dans le truc, il faut que les espaces publics, etc., qu'il y ait des débats un peu partout avec les citoyens et les citoyennes de ce pays, etc., pour qu'ils puissent choisir. Et s'il n'y a pas ça, eh ben c'est pas les 2 mois qui nous séparent de l'élection, on va dire non, là, maintenant on va mettre... Vous avez le droit de venir faire la campagne électorale comme on a l'habitude de le faire, et puis on voit défiler 36 personnes à la télévision qui disent bon, voilà, c'est-à-dire, là vraiment, c'est-à-dire que c'est pas du tout ni le débat ni la discussion. Et là, on est donc dans une situation de déni absolu des libertés démocratiques et des droits démocratiques. Et donc, les élections de ce point de vue sont complètement améliorées. C'est une formalité pour faire continuer un système et un régime libéral qui compte imposer et continuer ces passages en force dans un contexte où les rapports de force ne permettent pas de remettre en cause cette situation dans un contexte où c'est les projets libéraux, c'est le libéralisme qui s'exprime par différentes expressions. Des fois, on nous dit que c'est, on est dans l'opposition, mais d'ailleurs, ceux qui sont dans l'opposition, souvent, quand ils n'étaient pas général jusqu'en 2015, n'est-ce pas? Ils étaient chefs de gouvernement, etc., comme Ben Blis, et encore d'autres, c'est-à-dire même des partis qui se réclament de l'opposition, qui ont participé souvent aussi, je veux dire, dans le temps, etc., y compris avec Bouteflika, d'ailleurs, et compagnie. Donc, c'est-à-dire, de ce point de vue, c'est des projets libéraux. Donc, sur le terrain du libéralisme, ils sont pour nous des adversaires, des ennemis qu'on doit combattre. Sur les questions démocratiques, on peut faire avec eux et avec tout ce beau monde. Sur les questions démocratiques, mais les questions démocratiques, mais je suis dans l'abstraction. Sur les questions démocratiques, il y a une plateforme écrite point par point. On va dire oui, non, quand c'est non, parce que les libertés démocratiques pour nous, s'ils ne profitent pas la majorité, ça veut dire ils vont profiter une minorité. Et c'est pas les libertés démocratiques. La démocratie, par définition, ils sont censés justement être dans au service de la majorité. Donc entendons-nous. Je pense que c'est une priorité. La question de la défense des libertés démocratiques, je vais citer un exemple. Par exemple, ceux qui proposaient pendant longtemps, pendant toute une période, consensus national comme solution. Ben, le consensus national, quand on a discuté avec les Jemaah, donc du FFS pour ne pas les nommer, etc., ce qu'on leur avait dit, on leur avait dit le consensus national. Est-ce qu'on peut faire consensus entre patrons et travailleurs? Normalement, non. Bon. Donc, on ne va pas discuter de ça. Par contre, on peut faire un consensus national sur les questions démocratiques. On va dire sur les questions démocratiques, etc. Et on leur avait dit, si dans le consensus national que vous proposez, il n'y a que les forces, etc., sociales et politiques, etc., qui se battent sur la question démocratique, on vient avec plaisir, il n'y a aucun problème, c'est notre ligne depuis longtemps. C'est écrit dans les statuts du PST, donc 89 quand on l'a fondé, et ça vient même d'avant, comme on était dans la clandestinité. La question de liberté démocratique, c'est une priorité dans notre combat. Donc la question ne se pose pas. Par contre, on leur avait dit, si vous associez le pouvoir, et c'est ce qu'ils proposaient dans leur consensus national, là, on aura une exigence. On viendra, même avec le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est une force politique dans la société aussi, etc. On viendra, mais avec une condition. On dit, on ne va pas s'attabler avec le pouvoir dans une réunion pour discuter d'un consensus national, alors que le pouvoir nous interdit, avant d'entrer dans le bureau où on se réunit, et à la sortie, à la fin de la réunion, de s'exprimer, d'avoir le droit de manifester, au moins que le pouvoir lève les entraves à l'exercice des libertés démocratiques. Si vous voulez qu'on associe le pouvoir, on va lui dire, on est prêt à faire consensus sur la question démocratique, mais lever avant puisque c'est écrit dans la loi, etc., qu'on a le droit de manifester, de s'organiser, de faire grève, etc. Donc, au moins. Donc, c'est un gage de bonne foi du pouvoir, si le pouvoir veut vraiment consensus national, etc., sur les questions démocratiques, bien entendu. Encore une fois, je le répète, parce que peut y avoir toujours des malentendus là, il s'agit des questions relevant des libertés démocratiques. Sur les questions économiques, sur les questions sociales, ça c'est autre chose. Idéologiquement, on est différent. Notre combat même, il est contradictoire. Et parfois, c'est des ennemis, je veux dire, de classe, etc., dans la lutte politique, etc., que nous menons. Donc, au moins, qu'on nous avait. Et plus que les questions démocratiques, dans l'urgence, puisqu'on a parlé du processus libéral qui s'accélère, tout ça, eh bien, on réitère, le PST, ça fait quand même quelque temps, qu'il propose non seulement aux forces politiques, qui se reconnaissent dans ce combat, mais aussi aux forces sociales, etc., donc de construire un large front qu'on appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui convergence démocratique. Donc il y a la question démocratique, comme je viens de l'expliquer, convergence démocratique anti-libérale et anti-impérialiste. Donc ça veut dire là, on va au-delà des questions démocratiques pour ceux qui se reconnaissent dans le combat anti-libéral. Et quand on dit le combat antilibéral, il faut encore une fois savoir que aussi c'est un combat qui peut concerner même des secteurs de la bourgeoisie. Parce qu'il y a des secteurs de la bourgeoisie qui peuvent ne pas être intéressés par la libéralisation, parce que c'est leurs intérêts qui sont en jeu. Alors là, on peut citer quelques exemples. Vous savez, par exemple, récemment, il y a eu la liste avec les importations, oui ou non, etc. etc. Et bien, il y a des secteurs dans le patronat, etc., qui dit, vous n'importez pas ça parce que ça nous pose problème. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent se protéger. Mais depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sur le feu, puisque les pressions impérialistes, justement, c'est de lever ces entraves pour le commerce international. On dit non, et d'ailleurs, au fur et à mesure, ils reculent sur leur liste et sur leur truc, etc. Et parfois, donc, c'est même des gens des secteurs du patronat qui disent, non, il faut quand même se protéger, etc. Donc, l'antilibéralisme, donc, il peut, mais dans une phase actuelle, pour nous, oui, il faut un front antilibéral. Et anti-impérialiste parce que c'est les puissances aussi impérialistes, comme on le sait. Ah, ça, c'est une réalité, je veux dire. Et non pas un slogan ou une fanfaronnade ringarde taboukri quand on dit impérialiste. Ça, c'est une réalité, ce qui est en train de se prendre, on va le voir, même autour de nous. J'ai cité des exemples tout à l'heure sur le Venezuela et ailleurs, etc. Et donc, il y a donc ces pressions impérialistes, etc., auxquelles il va falloir faire face, sinon c'est cela qu'il s'agit. Donc, le contexte actuel, il est pour nous marqué avant tout par ces impératifs qu'il va falloir construire. Et donc, c'est un appel, encore une fois, que je relance au nom du PST, que nous appelons de nos voeux, du profond, il y en a de nous-mêmes, la nécessité donc de cette convergence, la nécessité de construire sur les questions démocratiques en priorité, etc., même de façon ponctuelle, etc., pour se battre, mais aussi de façon plus durable, etc., de cristalliser cette convergence anti-démocratique toujours, mais aussi anti-libérale et anti-impérialiste avec les forces qui peuvent donc aller un peu plus loin donc sur ce terrain-là. Et le but à terme, c'est aussi celui de clarifier, c'est-à-dire cette lutte. C'est-à-dire la lutte, elle n'est pas uniquement sur le terrain démocratique, elle est aussi sur le terrain économique et social, pour un projet de société différent, projet de société émancipateur, qui aussi, c'est-à-dire au-delà de ces questions, puisqu'on ne les a pas évoquées, permet aussi l'émancipation, je veux dire, sur les autres questions, que ce soit la question des femmes, pour leur émancipation, que ce soit sur la question culturelle, etc., soit sur la question autre, permettant donc à notre peuple et aux travailleurs et aux masses populaires algériennes donc d'avoir un projet de société meilleur pour l'avenir. Voilà, donc nous, on propose un projet de lutte et on considère que l'élection donc ne va pas changer grand-chose. Nous nous exprimerons dans quelques jours à ce sujet, sur techniquement, participons, participe pas, ou là on appelle à soutenir, ou là on appelle à voter blanc, ou ne pas y aller, ou à brûler les urnes, entre guillemets, ça je le dis, parce que beaucoup de monde parle de boycott, et le boycott ça n'existe pas normalement s'il ne s'agit pas d'empêcher l'élection. En principe, boycotter ça veut dire empêcher l'élection. Voilà ce que ça veut dire. Comme en 2002 en Kabylie, il y a eu un peu l'empêchement, mais surtout le FIS en 91, les élections de juin qui ont été reportées à décembre, c'était un empêchement, c'était un boycott en quelque sorte. C'est-à-dire ils ont empêché l'élection. Donc c'est ça le boycott. Le reste, ce n'est pas le boycott. Le reste, c'est ne pas participer, etc. Ah, voilà. Mais comme on voit, il y a même de menaces sérieuses de Gaïd Saleh et de Bedoui, donc récemment sur ce qui compte en quelque sorte. Pas empêcher l'élection parce que je pense pas qu'on en est là, mais en quelque sorte chahuter cette élection où donc le système veut passer en force avec un cinquième mandat avec un personnage donc que tout le monde sait qu'il est évidemment hors course, hors champ, même individuellement, biologiquement, tout ça, etc. Voilà, donc je crois que je m'arrête là et j'espère qu'on aura un échange.
Bonjour tout le monde. Merci Mahmoud pour cette conférence qui nous a permis d'éclaircir beaucoup de points. Je remercie aussi Raj qui nous donne l'opportunité de s'exprimer, de voir plus clair et de commenter. Évidemment, c'est voilà. Moi, a priori, la première des choses dont je devais parler, c'est justement pendant la guerre de libération, mais justement la période Boumediene. C'est vrai qu'il avait pris le pouvoir de force, sauf que moi, personnellement, j'étais à l'université, et bon, à l'époque, le régime était plutôt socialiste, mais tout le monde savait qu'il y avait un capitalisme d'État. Sauf que même si, au temps où il y avait uniquement la FLN, parti unique, il y avait une opposition qui formait, je suis en train de parler de notamment les partis de gauche, je parle du PAX, il y a eu d'autres partis qui faisaient un travail remarquable, en sourdine certainement. Bon, le PAX était semi-clandestin, mais je parle de l'université où il y avait un travail remarquable qui se faisait dans le milieu étudiantin, du moins, il formait. Et là, ce que je dois avouer, c'est que la jeunesse avait beaucoup d'espoir. C'est vrai qu'on n'avait rien, mais on avait beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui a permis d'avancer. Et si on regarde actuellement autour de nous, pour la plupart qui sont militants et qui luttent jusqu'à présent, c'est des gens qui ont été formés à l'université. Actuellement, le drame, c'est que cette formation politique n'existe pas ou très peu. Ce que je voulais dire, c'est que autant de le libéralisme sauvage, c'était autant de Chedly. Il y a eu ce que j'appelle capitalisme des arrivistes, parce que tout a pratiquement été bradé, tout a été vendu, et malheureusement, je parle du secteur public, où ne restait pratiquement rien, parce qu'au temps de Boumdine, il y avait tout de même l'industrialisation. C'est pas pour rien qu'on appelait l'Algérie la Mecque des révolutionnaires, ça c'est très très important, du point de vue formation politique. Malheureusement, tout a été pratiquement remis en cause depuis Chedly jusqu'au jour d'aujourd'hui, et on arrive à une jeunesse, l'Algérie, comme pratiquement tous les pays du Maghreb ou du monde arabe, elle est représentée par une jeunesse qui est très importante par rapport à l'Europe vieillissante. Malheureusement, cette jeunesse n'a plus aucun espoir. Même des diplômés veulent quitter le pays. Le taux de suicide est alarmant en Algérie. On s'immole maintenant. C'est une mode, c'est une nouvelle mode. Donc, à mon sens, comment faire pour que justement cette jeunesse, parce que c'est l'avenir de l'Algérie, cette jeunesse reprend espoir. La lutte qui a été faite par nos parents, je parle des véritables révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie du joug colonial, comment continue leur combat? Parce que, à mon sens, il n'y a pas eu, je dirais, de transmission, même si un peu à travers l'histoire, on connaît un petit peu ce qui s'est passé réellement. L'histoire a été falsifiée, évidemment. Donc, comment faire ce relais, comment passer ce flambeau vers cette jeunesse? Parce que je pense que les cadres actuels, je parlais de la classe moyenne qui existait au temps de Boumdine. Il n'y a plus de classe moyenne. Qu'est-ce qu'on voit en Algérie? Les riches et les pauvres, et encore les riches. Comment ils se sont enrichis? C'est en volant, c'est en détournant les biens publics. Un ministre s'enrichit, c'est pas normal. Il est venu avec les poches vides, il repart avec toute une fortune. Ça, ce n'est pas normal. Et le plus dramatique dans toute cette histoire, c'est l'impunité. On ne punit pas les gens qui volent. On punit un voleur, hein, un simple voleur. Mais ces gens-là qui ont volé, voilà. Donc moi, ma question justement, il y a des luttes un peu partout, et heureusement pour nous, mais comment canaliser toutes ces énergies? Comment arriver, parce qu'eux utilisent la politique de diviser pour régner. Nous, si on était intelligents, c'est le contraire. On doit se rassembler. Vous avez parlé de la lutte des enseignants. La Confédération, on refuse de la reconnaître, de l'agréer. Maintenant, les enseignants ont décidé de passer outre parce que la grève qui va se déclarer, c'est la fin du mois, c'est justement dans le cadre de l'intersyndicale de l'éducation, et il est probable qu'il y aura une autre grève qui va regrouper tous les syndicats de la fonction publique. Merci.
Sion, à propos de votre analyse, où vous avez presque tout dit, et en même temps, je pense que n'importe qui dans notre société peut dire autant. Sinon, vous avez un peu parlé de production et de travail qui ne sont en fait que des droits. Et puis les droits, on les réclame dans un état de droit. Pourquoi s'amuser à parler de droits alors qu'on n'est même pas dans un état de droit? C'est la première question. Et puis, donc il n'y a pas de droit, il n'y a pas de politique. Et là, vous parlez de tendance socialiste ou là, de gauchisme ou là, je ne sais pas quoi. On n'a même pas une classe politique, ou là, on ne peut même pas parler politique. Et vous nous parlez de gauchisme, de socialisme. Là, c'est vraiment étonnant. Ensuite, il y a une autre question. Lorsque vous avez parlé je ne vais pas commencer par ça, mais je vais parler de quelque chose qui existait avant dans la théorie des jeux. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez. De toute façon, il y avait un éminent mathématicien qui a donné un théorème. Donc c'était l'équilibre. Lorsqu'il y a deux contreparties qui se concurrent, donc l'idéal serait de choisir l'équilibre. Ça assure un compromis pour les deux contreparties. Et donc, de là découle un peu la notion de consensus. D'accord? Donc, lorsqu'on veut faire un consensus, ben, c'est dans l'espoir qu'il y ait un état de droit. C'est à peu près, enfin, je pense, hein, c'est dans l'espoir qu'il y ait un état de droit, qu'il y ait une constitution, qu'il y ait, puisque lorsqu'on vient, on revient même aux droits fondamentaux, à la constitution. Est-ce qu'on a vraiment une constitution représentative de la société algérienne? Je pense que non. Donc j'attends votre commentaire là-dessus. Et puis, vous avez parlé de construire un rapport de force dans la base. On aimerait bien comprendre c'est quoi ce rapport de force. Et voilà, c'est bon.
Zulflaoun, vous avez parlé, je vous remercie tout d'abord pour votre exposé, assez riche et assez... Mais je compte poser deux questions. La première, c'est que vous avez parlé d'un front, dresser un front, notamment... dans cette situation où les luttes au niveau des partis ou un mouvement partisan, syndical, et puis dans la base. Comment converger déjà ces luttes afin de construire un front uni anti-impérialiste, quoi que ce soit à l'intérieur, quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, la deuxième question, c'est il y a tout ce qui est vous avez parlé notamment de la base. C'est dresser un plan, c'est dresser un rapport de force à la base. Est-ce que vous voyez pas dans ce cadre où il n'y a pas de solution, quoi que ce soit sur le plan c'est-à-dire dans le système. Est-ce que vous ne voyez pas la solution qu'il y ait nécessaire de passer vers une assemblée constituante qui va baser sur être basée sur l'assemblée, sur la volonté populaire afin de passer vers une autre époque de droit et tout, mais tout en tenant compte des partis qui la revendiquent. Et c'est ça mes questions. Je vous remercie.
Zulf Laoun, salam alaikum. Hna l'arbi, coordinateur Radj Tati Tizi Ouzou. Donc, j'ai deux questions à poser. D'abord, je tiens à vous remercier pour accepter l'invitation de venir à ce forum. Donc, mes questions sont... Donc, Fidil Sera al-Qa'im, Ben el-Koutel, Koutel Sultan, ou Nahj al-Libéral al-Mutawassi'a, في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وتأثير الإمبريالية العالمية الشرسة في العالم والجزائر خاصة والتراجع المتأزم لحقوق الإنسان. دونك في نظركم ما هو الحل لهذا الوضع وكيف يمكننا تعبئة الشعب في en prenant compte la situation actuelle, le contexte actuel du pays. Le wada al-qa'im. Donc la deuxième question, jusqu'à quand le peuple algérien aura la possibilité du droit à son indépendance et à disposer de lui-même pour sa liberté et choisir son représentant?
Bah, bonjour à toutes et à tous. Bah, alaykoum, Zulf Laoun. Donc, le pays est dans une situation d'impasse. Il y a de multitudes de propositions et d'initiatives pour sortir le pays, mais le pays c'est-à-dire de l'impasse. Donc, des initiatives se multiplient, mais on a l'air de voir que il y a le peuple, il y a les organisations politiques, un peu le peuple d'un côté et les structures politiques de l'autre côté. Vous parlez de libéralisme, néolibéralisme et tout, c'est bien, mais on entend. Mais à mon avis, on voit que on est beaucoup plus dans l'élitisme qu'autre chose, parce qu'on n'arrive plus à mobiliser par rapport à ces questions dans la société. N'est-il pas le temps de refonder le discours sur les mêmes revendications économiques et sociales, parce qu'on a l'air de gens qui voyagent dans l'air, il y a des citoyens en terre. Merci beaucoup. En deux mots, c'est que, c'est-à-dire la refondation de discours de la gauche par rapport à ce qui se fait actuellement, parce qu'on ça mobilise plus autour de ce que vous disiez.
Ben, je ne sais pas s'il faut commencer par la fin. Non, vu, quand même, la formule avec Tawahdi Hadar Bzaf, il dit Ubdam l'Akhar, tu vois. Non, je veux dire, bien sûr, ça se recoupe, il y a plein de questions qui se recoupent. Et donc, c'est-à-dire, je vais essayer un petit peu de rassembler les choses, etc., pour exprimer l'idée en tentant de prendre en charge, disons, les éléments qui ont été exprimés par tout le monde. Il y en a déjà, c'est-à-dire, chacun se reconnaîtra quand j'ai, lui-même sans répondre individuellement. Par exemple, moi, je n'ai à aucun moment dans mon intervention, normalement, j'ai parlé de socialisme. J'ai pas dit de socialisme, on a parlé d'antilibéralisme, on a parlé de ça, pas de socialisme. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un, dans sa question qui disait, oui, le socialisme, vous parlez de socialisme, non. On s'appelle Parti Socialiste des Travailleurs, effectivement, on se réfère au socialisme dans notre programme, etc. Mais là, je ne suis pas venu pour parler de socialisme, qui n'est pas, c'est-à-dire, à l'ordre du jour, dans le sens, c'est-à-dire, concrètement, il y a les bataillons de travailleurs, ou le Jamaïra Manao, il suffit de faire ça pour faire la révolution socialiste. Non, ça c'est une question qui se posera plus tard. Dans l'immédiat, on a essayé de répondre sur un terrain politique, non pas idéologique, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, voilà, on a fait quelques propositions. Donc, deuxième des choses, je ne sais pas si c'était Hassib, je crois, qui intervenait au début, qui disait « ba'u kul le chèque », etc. Justement, j'aimerais dire plutôt non. « Ba'u », bien sûr, en partie, mais pas « kul le chèque ». C'est-à-dire justement, dans la fin des années 90 et une bonne partie des années 2000, ils ont privatisé plein de choses, etc. Mais ils n'ont pas pu justement aller plus loin. C'est-à-dire à un moment donné, d'ailleurs, ils ont préféré même le rythme, même les choses, etc., de changer. Et puis, bon, il n'y avait pas de consensus. C'est-à-dire, Bouteflika a tenté, à travers la loi des hydrocarbures de 2005, il a tenté quelque chose de grave, je veux dire, d'aller dans le sens, justement, d'une privatisation encore dans un domaine aussi... Mais c'est-à-dire, il a vite reculé en 2006. Bon, il y a eu des résistances, il faut le rappeler. C'est grâce à ces résistances aussi. Donc, en 2006, ils ont dû retirer ce qui était essentiel dans cette loi des hydrocarbures de 2005. Et depuis, d'ailleurs, ils sont entrés dans une logique patriotisme économique, etc. Après le troisième mandat, en 2008, ils sont entrés dans une logique. Puis, il y avait une aisance financière, vu le baril du pétrole clair. Donc, ils avaient des moyens, une marge de manœuvre financière qui leur permettait d'aller blâcher, de ne pas créer une situation explosive, etc., immédiatement. Alors, ce qui reste, il reste justement, c'est-à-dire quand je parlais d'accélération, du processus de libéralisation dans l'avenir, c'est justement privatiser ce qui reste, si tu veux. Parce qu'il y en a, son ACOM, c'est encore public, le Hadjar, c'est encore public. Malgré Arcelor, pendant une période, ils l'ont récupéré. Son Atrax, c'est encore public. Son Elgaz, c'est encore public. Air Algérie, c'est encore public, etc., etc. Je veux dire, je ne vais pas tout citer. C'est-à-dire, il y a encore donc des segments d'économie, etc., et même parfois importants, qui sont encore publics. Et c'est ça, d'ailleurs, l'enjeu. Aussi, il y a un discours, c'est-à-dire que quelqu'un, dans son intervention, a repris ce discours récurrent. Et à mon avis, qu'il va falloir attention, c'est-à-dire faire attention de mon point de vue, parce que quand on dit il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un projet politique en Algérie. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se faire en Algérie. Ben, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je mets à Kultashor et j'ai la Banque mondiale ou la FMI pour faire la revue ou l'Agna ou je m'adresse. Ils sont dans une politique quand même. Il y a une politique, ça s'appelle le libéralisme. Ah non, c'est lui qui ne veut pas voir ça, c'est autre chose, mais je veux dire, là, dans la réalité, ceux qui travaillent se battent parce qu'ils subissent une politique. Ceux qui sont en chômage endémique, paraît-il, les chiffres officiels parlent de 29% pour les jeunes de 16-24 ans, sûrement plus. Officiellement, ils parlent de 11% pour tout le monde, mais en réalité, c'est beaucoup plus, on le sait très bien, puisque, etc. C'est-à-dire, ceux qui subissent cette précarité, etc., ils savent très bien que c'est le fruit d'une politique libérale. Et donc, il y a une politique, et il faut la nommer. On gère une économie, etc. Mais bi'ou yichelo, malkharj, d'ailleurs, on importe que les jouets bi'ou le gaz. C'est une politique, c'est un choix politique. Donc, c'est-à-dire, celui qui te dit, Zahir, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de truc. Bon, c'est-à-dire, il va falloir leur dire non. Parce que c'est ce discours, justement, qui construit l'apolitisme, j'allais dire, et le désintérêt de la politique. Alors que le but, c'est d'intéresser les gens à la politique. Et au combat politique. Parce que c'est par le combat politique aussi qu'on va, pour revenir et rebondir sur d'autres questions, construire ce rapport de force dont on parle. Donc, c'est-à-dire, il faut au contraire. C'est-à-dire, il faut que la majorité des Algériens et des Algériennes se mouillent dans les combats politiques et dans les luttes politiques. faut que la majorité se structure dans des associations, dans des partis, dans des syndicats, etc., pour qu'on puisse faire progresser la conscience dans ce pays. Donc, c'est-à-dire, c'est de cela qu'il s'agit, fondamentalement. Et donc, c'est-à-dire, et on fait ça face à une politique. Donc, il y a un nombre de questions, je crois, qui se recoupent sur comment on fait la convergence, etc. Et puis même, c'est-à-dire, pour rebondir sur la question de l'état de droit, eh ben, quand il n'y a pas d'état de droit, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien savoir. Tout à l'heure, un ami, donc, il disait, il n'y a pas d'état de droit, alors qu'on parle de eh ben, quand il n'y a pas d'état de droit, on dit, il faut un état de droit. Ah, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on dit. On dit, il faut un état de droit, ils se battent pour les droits syndicaux, les droits sociaux, les droits démocratiques, voilà. C'est-à-dire, ou là, quand il n'y a pas un état de droit, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir, qu'est-ce qu'on fait? On subit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se bat pour qu'il y ait un état de droit. Donc, c'est ce qu'on dit. Maintenant, moi, je l'appelle pas ça état de droit, parce que c'est pas ma terminologie, je veux dire, préférée. Mais ça me gêne pas de parler de ça. C'est pas ça la question. Bien sûr qu'il faut un état de droit qui respecte un minimum. On n'est pas dans un état de droit dans la mesure où ils ne respectent pas leurs droits, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est leur constitution qui dit qu'on a le droit de manifester et on nous l'interdit. C'est leur constitution qui dit qu'on a le droit de faire grève et on est en train de nous enlever ce droit. C'est leur qui dit qu'on a le droit de s'exprimer, etc., qu'il y a l'égalité, etc. Bien sûr, il va falloir se battre. Donc, sur ce terrain, il va falloir bien exprimer. Sinon, il y a un tas de questions auxquelles je ne peux pas répondre de façon, je veux dire, comme si je suis quelqu'un qui a des recettes toutes faites. On aura le tapra. Non, c'est pas comme ça. Les questions qui disent comment on va faire la convergence, comment on va construire, comment, etc. Ça c'est un débat. Ce n'est pas, je veux dire, si on veut vraiment construire une convergence large, si on veut vraiment construire quelque chose qui va réunir beaucoup de monde et les luttes et les traduire ensuite dans un projet commun politique, etc. Il va falloir que tout le monde apporte son avis. Il faut que tout le monde apporte son expérience. Il faut que tout le monde apporte. Moi, je ne peux donner qu'un avis, selon une expérience, etc., qui est la mienne et qui est le combat dans lequel on est depuis des décennies dans ce pays. Mais je veux dire, ça sera un avis. Donc, comment faire la convergence? Commençons par avoir cette volonté de converger. Commençons par avoir cette volonté de se retrouver pour discuter. Et ensuite, on verra, c'est-à-dire les avis des uns et des autres. Moi, ce que je peux dire qu'il y a, contrairement d'ailleurs à une question en rapport avec les idées de gauche, etc. Je crois que c'est la dernière question. Je disais, c'est pas, en ce moment, c'est pas ça la moda, mais j'ai à dire. Il y a la moda, qui a une autre, la moda, je dis, là, donc, à des ça, les machins, comment vous allez faire maintenant? Attention, c'est-à-dire, l'afkar, puisque ça a été évoqué, moi, j'ai pas évoqué le socialisme comme objectif immédiat. Mais c'est-à-dire, les idées de gauche, les idées qui vont dans le sens de ce projet, etc. Ce n'est pas parce que les gens vont dire, on est pour le socialisme, et ça veut dire qu'ils sont pour le socialisme. Non. D'ailleurs, il y a une chier de partis qui s'appellent socialistes, soit en France, soit en Algérie, soit ailleurs, qui disent parti socialiste, etc., mais qui sont libéraux, à droite, etc. Donc, ce n'est pas comme ça. Le projet de gauche, c'est un projet déjà objectivement, déjà. C'est-à-dire, quand les travailleurs se battent pour augmenter les salaires, se battent pour leur droit de faire grève et leur droit d'avoir une section syndicale, etc., ils sont, au contraire, dans la moda de gauche. C'est la moda libérale qui est en train de perdre vitesse. Le libéralisme, il y a 20 ans, oui, il avait un peu le vent pour 93, 14, 15. Même les travailleurs en Algérie qui connaissent l'usinette, pour ceux qui se souviennent, il y a beaucoup de jeunes là, mais je veux dire pour ceux qui s'en souviennent, il y avait bizarre les travailleurs qui voulaient pas, je pars au départ volontaire, ou attends les chouïadras, un monde de taxi. C'était ça d'ailleurs. Tout le monde voulait faire un taxi. Mais ils se sont rendus compte que quand tout le monde avait son taxi, il n'y a pas de clients, puisque chaque client avait son taxi. Bon, non, je dis ça pour rire. Ce que je veux dire, que c'est pas une solution individuelle, etc. Et à ce moment-là, donc, mais depuis, aujourd'hui en Algérie, on pose la question à tout le monde, je veux dire dans nos familles, dans nous-mêmes, etc. Tu préfères travailler chez le privé ou l'Inde Dola ou l'Inde Dola? Il pense qu'Inde Dola il a plus de droits, etc., etc. Alors qu'auparavant, la privatisation, tu dis oui, machlaouchinasi khadmou, le privé, etc., etc. Puis on a vu qu'en général, c'est un hold-up organisé contre l'économie nationale, contre la richesse nationale, contre les biens nationaux qui appartiennent à tout le monde. Maintenant, tout le monde sait que, je sais pas, que Arbarab, quand même, il a fait sa fortune à partir du secteur d'État. Il y a même les banques publiques, etc. D'ailleurs, le problème, c'est quoi maintenant? Le problème, c'est que les banques publiques, ils attendent les sahabs, ils attendent les chlinathani. Entre eux, je veux dire, c'est comme ça que la guerre se passe. Donc, c'est-à-dire, on sait que ça, c'est une question de mainmise sur les richesses nationales, etc. Et donc, aujourd'hui, au contraire, c'est-à-dire, on est en train de revenir à se rendre compte. Parce qu'auparavant, les gens trouvaient que le discours libéral était un peu à la mode, justement. Je dis de manière approche, maintenant il y a une expérience concrète. Et les gens savent que le libéralisme est en train de, au contraire, de détruire des vies réellement humaines, etc., et d'accentuer les inégalités, etc. Et maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire, au contraire, toutes les luttes sociales qui existent, c'est des luttes généralement, je dis bien sociales, généralement objectivement, pour ne pas dire à 100%, sont anti, contre le projet libéral. Même quand ils ne le disent pas, objectivement, maintenant subjectivement, c'est-à-dire en termes de conscience, etc., nous n'avons pas, malheureusement, et c'est ça le problème, je veux dire, que nous avons. Le problème fondamental, c'est celui-là. C'est que la conscience, malheureusement, n'a pas progressé pour faire face avec ce qu'on est en train de faire objectivement. Les gens font grève, se battent, ils dorment les boulets, ils dorment les syndicalistes, etc., etc. Mais quand tu discutes avec lui, ben là qu'il est encore sous influence d'une idéologie, là, il développe le discours ambiant. Mais pourquoi? C'est que le discours de gauche, quand on dit « mais il est ringard », en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui, celui qui veut, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, samedi 16 février 2019, l'Ibrahisme a un discours un peu de gauche, etc., etc., les amis, il me dit l'andraj, mais qu'est-ce? Où est le discours de gauche? Aujourd'hui, je veux dire, c'est un exemple, vous m'avez invité pour donc je développe ces idées de gauche, on ne les développe pas à la télévision, c'est interdit, on ne les développe pas à la radio, on ne les développe pas dans la presse, on ne les développe pas, donc comment veux-tu que les idées de gauche soient en vogue, etc.? C'est compliqué. Donc c'est-à-dire, on a beaucoup plus de difficultés. On a un monologue libéral dans tous les médias, dans toute la propagande, etc. C'est la force de l'argent qui paye, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est-à-dire, il va falloir quand même se rendre compte. Mais objectivement, toutes les luttes qui sont en train d'avoir lieu dans la société, y compris des luttes démocratiques. Et quand je dis y compris des luttes démocratiques, je veux dire soit pour les libertés, etc., soit sur les questions femmes, soit pour l'émancipation des droits des femmes, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, etc. Ça fait partie de ce combat et de ce projet objectivement. Et il va falloir, au fur et à mesure, voir, c'est-à-dire, bien sûr, on est pressé, on aimerait bien que les choses se cristallisent, etc., et que la résistance continue. On espère qu'il va y avoir un bond dans ce sens. Mais dans la réalité, c'est une construction patiente qu'il va falloir faire. Ce qui est fondamental, c'est ne pas abandonner cette construction. Donc on ne va pas l'abandonner, on va continuer à construire, et il va falloir patiemment, avec toutes les difficultés que nous avons, et essayer de voir comment faire converger au fur et à mesure ces énergies, ces forces, etc., etc., et dans le but d'avoir un projet commun, aussi petit soit-il, parce qu'il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de converger, ça veut dire faire le même parti, pas forcément. Il s'agit de convergence, d'une entente, d'un front commun, où on frappe ensemble sur des questions qui nous unissent, etc. On va frapper ensemble, même si on marche séparément, c'est-à-dire même si le PST reste PST, l'autre il reste ce qu'il est, mais c'est-à-dire sur des questions précises, une plateforme, et on l'amène, je mets, etc. Ça nous permettra certainement de progresser. Et ma foi, quand je vois, c'est-à-dire autour de moi, on voit bien, c'est-à-dire les énergies de gauche, les énergies progressistes, etc., sont divisées inutilement, de façon parfois inacceptable. On voit des gens qui disent pratiquement la même chose, mais ils sont, c'est pareil, il y a des subjectivités, des choses comme ça, parfois c'est lié à l'histoire, là, des choses. Mais il faut absolument trouver moyen comment recoller ces choses à travers au moins des expériences. Donc voilà comment je vois la construction, c'est-à-dire qu'objectivement il y a moyen, subjectivement il va falloir construire les choses le plus rapidement possible, mais le plus rapidement possible veut dire aussi patiemment, parce qu'il ne faut pas non plus précipiter pour rien. C'est-à-dire, on va faire un nijri ou un ba'da man ibn walou. Donc, c'est-à-dire, lazim, je ne sais pas si j'ai répondu en général, je veux dire, aux préoccupations des uns et des autres, mais sinon, le débat continue.
Bon, je me présente, parce que il faut qu'on apprenne à se connaître. Hein, parce que moi, j'ai entendu des personnes parler sans les connaître. Voilà. Donc, Jamaldin Oulman, je suis médecin à la retraite, artiste, musicien, dessinateur et activiste. Voilà. Donc, je vais un petit peu faire quatre petits commentaires. Le premier, c'est à propos de la crise. Il faut à tout prix que nous insistions dans notre propagande, parce qu'il s'agit bien de cela, parce qu'en face de nous, nous avons une propagande. Quand nous parlons de crise, la crise, ce n'est pas un phénomène naturel, je crois, un tsunami ou un tremblement de terre. La crise est due à des activités de certaines personnes à l'échelle mondiale. Il faut bien dénoncer cela. C'est pas un météore. La crise, c'est des activités financières des gens qui sont en train d'accumuler les richesses à l'échelle mondiale. Vous avez vu les dernières statistiques d'Oxfam qui ont montré que 26 personnes à l'échelle mondiale ont accumulé autant de richesses que 3,5 milliards de personnes les plus pauvres à l'échelle de la planète. Ça, c'est du réel. Donc, il faut toujours dire, il faut pas dire la crise, Agdin. La crise, c'est des actions, des activités bien définies par des personnes bien définies qui défendent des intérêts d'une minorité à l'échelle mondiale au détriment d'une majorité de la population mondiale. Maintenant, pour ce qui se passe chez nous en Algérie, effectivement, donc la répercussion de cette crise, effectivement, c'est tout simplement les quelques multimilliardaires qu'il y a en Algérie qui sont en train de gérer de plus en plus les affaires de l'État, indirectement ou directement. Ils font en sorte que les lois que l'État promulgue régulièrement depuis quelques années aillent en leur faveur. Et c'est toujours une histoire d'accumulation des richesses, l'accumulation des moyens de production, c'est-à-dire les machines, les usines, la terre et tout le reste. Donc on revient toujours au même schéma, mais à l'échelle de l'Algérie. Là aussi, on doit être clair et bien, c'est-à-dire dans nos discours, dans toutes les idées qu'on développe, on doit bien montrer cela, parce que c'est ce qui se passe tous les jours. Maintenant, j'ai aussi entendu parler de consensus. Il faut qu'on définisse bien ça. Le copain tout à l'heure a dit que quand il y avait deux forces qui s'affrontaient, on équilibre le consensus. Ok, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est que nous sommes dans un camp. En face de nous, il y a des gens, il y a des vampires, c'est des prédateurs. Houma, le consensus et l'homme, ils font en sorte que le curseur du consensus aille en leur faveur depuis des années. Nous devons faire le contraire. Le consensus, ça veut pas être, ça, pour moi, ça doit pas être le juste milieu. Le consensus, il doit être en faveur de la majorité des Algériens qui est opprimée, comme on dit, économiquement d'abord, et ensuite donc socialement, culturellement et tout ce qu'on. Donc, nous devons nous battre pour que déplacer le cursus en faveur des gens qui bossent pour vivre, hein, qui travaillent pour vivre, ou bien qui cherchent un emploi. Donc il faut bien sûr, il n'est pas question de rester au milieu. Sinon il n'y a plus de lutte. C'est-à-dire on s'équilibre, on est tranquille. Bon, on va pêcher l'espadon au large des Bahamas pour ceux qui peuvent, et le reste on crève ici. Même nous. Donc il faut à tout prix, on doit faire en sorte que le curseur aille vers la majorité, les intérêts de la majorité. Maintenant aussi, j'entends souvent, même mon ami Mahmoud en parle de volonté populaire et tout. Là aussi on doit être clair. Elle a pour moi des volonté populaire, mais Kashmina, je le dis honnêtement. Le peuple, c'est, pour moi, le peuple, c'est du tout venant. Je trouve tout venant pour la maçonnerie. Le peuple, il y a des classes dans le peuple. Moi, quand on me dit les intérêts du peuple, mais Kashmina, j'y crois pas. Les intérêts du peuple, plus que le peuple, il y a des classes, il y a donc des intérêts qui divergent, qui peuvent s'affronter au sein d'un même peuple. Qui m'a oukte Torah, qui dit que l'Algérie, le peuple algérien a libéré l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? Oukte Torah, kanou l'khda'in, kanou les gens qui ont donné leur vie, qui ont donné, il y en a qui ont donné juste leur temps, il y en a qui étaient opportunistes, de temps en temps par-ci, par-là. Eh ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on doit dire, c'est pas la volonté populaire, où est là, les intérêts du peuple. Hana, pour moi, nous devons lutter pour les intérêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui bossent pour vivre, ceux qui vivent de leur travail, mais chez ceux qui vivent du travail des autres, ou là qui vivent d'un petit trafic, ou là qui sont sous l'influence de la finance internationale et tout. Donc là aussi, il faut être clair. Nous sommes nous sommes en tant que révolutionnaires progressistes du côté de ceux qui sont opprimés économiquement, donc de ceux qui sont obligés de travailler pour vivre. C'est-à-dire s'ils ne travaillent pas, ils ne vivent pas. Donc là aussi, il faut être clair, c'est tout. Voilà.
Donc, Azulf Laoun, mon intervention, donc, on observe ces derniers temps qu'il y a une absence totale d'une classe socialiste intellectuelle. Quand on voit, par exemple, des marches, des comités de soutien de la part des populations un peu partout, pour Rabara, par exemple, qui est un grand baron libéraliste, comme étant un créateur de richesses, un créateur des postes d'emploi. Donc, on voit que il y a le manque de sensibilisation de la base de la part des partis de gauche pour la société. Parce que les idées socialistes, il faut qu'il y ait un accompagnement pour tisser ces idées dans le tissu, pour les injecter dans le tissu social. les partis de gauche en Algérie, ils ne sont pas des partis de masse, c'est des partis d'élite. Ils ne sont pas vraiment présentés sur le terrain. Et même ils ne travaillent pas un travail d'action avec le citoyen. Ils sont très loin de citoyens. Quand on voit, par exemple, même pour le PST, il a seulement une seule APC à l'échelle nationale, qui est de Barbacha et Nathan. Donc, il n'est pas vraiment présent avec le... C'est un problème. Donc, il faut revoir ça. Parce que pour véhiculer le projet socialiste ou bien le projet de gauche, donc, il faut qu'il y ait un contact avec la société. Ma deuxième question, si par rapport à la candidature de Fethi Gharas, c'est un militant de gauche, je ne sais pas, est-ce que le PST, il y a une possibilité de le soutenir dans les élections prochaines? Troisièmement, vous allez lancer une initiative, je pense, la convergence nationale, la convergence démocratique anti-libérale périaliste. Est-ce que vous allez solliciter tout le monde, toute la classe politique? Ou bien vous allez exclure les partis que vous considérez, soi-disant, c'est des partis démocrates, mais ils sont dans la logique du libéralisme, etc. Et quel est l'objectif de cette initiative? Et je vous remercie.
Donc, bonjour tout le monde. En fait, moi, c'est pas des questions, mais de poser des questions de l'un et de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement à travers la vidéo live qu'on est en train de diffuser. Donc il s'agit de Ali Blghalem et Isbay Salim. Donc je commence par les questions, les deux questions de Ali Blghalem. Donc la première question, qu'en est-il d'un front de gauche anti-libéral et anti-autoritaire? Donc ça c'est la première question d'Ali Blghalem. Sa deuxième question, donc que pensez-vous de la planche à billets critiquée dans tous les cercles acquis à l'idéologie managériale? Et donc pour la dernière question, le FFS, le RCD et Mouattana, chacun de son côté a appelé à la même chose, tentant à un rassemblement national, tentant à leur fameux consensus. Mais tout le monde veut être le leader. Pensez-vous que le zaïmisme, a fait assez de dégâts de cette opposition qui devient de plus en plus non représentative du peuple? Voilà.
السلام عليكم أزول غفلاون. نظرا للوضع الحالي للبلاد الكل يلاحظ ويشاهد إفلاس سياسي إفلاس اقتصادي وأخلاقي. حسب رأيكم من هو المسؤول الأول عن هذا الإفلاس؟ أخيرا الكل سمع حقوقي جزائري أطلق فتوى يقول فيها أن اليمين الدستورية يستطيع الرئيس أن يتجاوزها. يقدر برك يقولنا والله هل الدستور الجزائري يجيز هذا؟ شكرا.
مرحبا جميعا. في بادئ الأمر أود التحدث عن الأحداث المتسارعة في الساحة السياسية، خاصة بعد تسابق العديد من الأحزاب للوقوف مع المرشح الذي حسم أمر فوزه مسبقا، وجميعنا نعرف هل حزب العمل الاشتراكي فصل في موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهل سوف يستغل هذه الانتخابات لإسماع صوته عبر تراب الجمهورية، لأن هذا الحزب، أنا من ولاية سقراس لم أكن أعرفه مسبقا، الفضل يعود لصديقي من الخلف، هل سوف يستغل الحزب هذه الانتخابات لجمع أكبر عدد من المناضلين الذين سوف يسيرون بمبادئه، والمحاولة مع الوقت إلى إنشاء طبقة شعبية كبيرة تهدف إلى بناء الجزائر، والمحاولة إلى إيجاد جمهورية ثانية مع الوقت؟ وشكرا.
زفلون تدبر ميرسي بور الإكسبوزي que je trouve très intéressant. Moi, je vais revenir sur le contexte actuel, sur les élections. Le mandat, le troisième mandat et le quatrième étaient un mandat de trop. Bon, le cinquième, c'est aberrant. Je pense, à mon avis, je ne sais pas si vous partagez l'avis, c'est que le fait d'imposer Bouteflika pour un cinquième mandat dans l'état de santé dont il est, est-ce que je le considère comme étant un indice que le système n'est plus comme avant, homogène, donc il y a une faible, il est fragile. Donc face à cette fragilité du système, d'un autre côté, on voit la classe politique un peu qui est divisée, atomisée, qui est là en quelque sorte malgré. Donc il n'y a pas une offre politique sérieuse, capable de capitaliser des luttes sociales qui existent dans la société. On a connu des initiatives un peu partout, de groupes de partis, mais c'est des initiatives qui vont pas loin. Ça veut dire à chaque fois, au bout d'un mois, d'une année maximum, chacun se retire, chacun négocie à sa manière au sein du pouvoir. Est-ce que vous ne considérez pas aujourd'hui que la classe politique, comme le pouvoir aujourd'hui, il a atteint la fin d'un cycle? Donc il y a une possibilité que les germes de sa défaite, de son échec, sont en lui, donc il va disparaître, il y aura un changement d'un système. En même temps, il peut se régénérer. Donc il y a un risque que ce système, il peut se régénérer et avoir d'autres formes. Mais aussi la classe politique actuellement algérienne, après 30 ans, depuis 1989, l'ouverture, est-ce qu'il n'est pas aussi arrivé à un fin de cycle? Donc il faut réinventer aussi leur manière de travailler, de voir. Et aujourd'hui, on trouve que le peuple, elle est d'un côté, la classe politique elle est d'un côté, le pouvoir elle est d'un côté, donc il y a une rupture avec ces trois composantes qui constituent l'État ou la société, alors que dans la société il y a une dynamique. Faut pas dire, moi, la société elle bouge aujourd'hui pour le cinquième mandat. C'est vrai, je suis pas, il faut pas orienter uniquement le débat sur le cinquième mandat, mais le cinquième mandat peut être un élément fédérateur, un élément qui peut rassembler des gens. Il est là sur le terrain, on le constate. C'est plus comme en 2014. Les jeunes, les Algériens s'expriment d'une manière libre. On a vu sur les réseaux sociaux des marches, des petites manifestations. Donc on ne peut pas marginaliser tout ça. Donc il y a une volonté, il y a une expression dans l'Algérie profonde. Il y a urgence de la capitaliser, même au début, autour de cette revendication contre le cinquième mandat, mais cette revendication qui peut se développer, d'aller vers la construction d'un état de droit où les libertés seront garanties, où on peut aborder la question contre l'impérialisme, pour la justice sociale, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est, si les élections passent, ça veut dire sans qu'il y ait une mobilisation dans la société, c'est une opportunité ratée pour nous, autant que société, autant que force. Il ne suffit pas de condamner uniquement le pouvoir. Le pouvoir, il est dans sa logique. Mais nous, on est aussi, on a notre part de responsabilité dans cette situation, parce qu'on n'arrive pas à nous imposer, on n'arrive pas à avoir notre propre agenda. On réagit par rapport à ce que le pouvoir fait. Donc, on est aussi responsable de cette situation. Que chacun de nous pose cette question. Parti politique, association, intellectuel, journaliste. Si on ne pose pas cette question, on ne se responsabilise pas, on se cache derrière le pouvoir. Donc le cinquième mandat, il peut passer et avoir un autre mandat pour le système qui va durer peut-être des décennies. Et merci.
Moi, ici Yasmina Chouaki, militante féministe. Militante à Tharwa Fama Soumar. Ce que je veux dire, c'est effectivement, pour moi, ces élections est un épiphénomène. Ils vont passer, Bouteflika va passer, mais quel contenu nous devons donner? Parce que effectivement, tout le monde me parle, eh oui, nous voulons du changement, nous voulons avancer. Effectivement, c'est une réalité. Le plus important, c'est comment avancer dans une société comme la nôtre. Essayer de proposer quelque chose pour ce que je voudrais, moi, ça c'est mon avis personnel, c'est une deuxième république, et passer vers un régime parlementaire, et même si le gouvernement doit tomber tous les jours. Ce que je veux dire, c'est comment, pour établir une constituante, et ça je me suis battue, je propose ça depuis longtemps, quel contenu devons-nous donner, et comment avancer? Parce que maintenant, les élections, pour moi, c'est du passé. Et Bouteflika va passer et ça va reconforter le régime en place. Eh bien, il faut que la société, pour moi, se mobilise autour d'une constituante et qu'on lui donne le contenu que nous voulons, c'est-à-dire un programme de gauche, une éventualité de position anti-néolibérale. C'est mon rêve, c'est vrai. Et je me bats là-dessus. Et je m'explique. Je voulais être. Merci. Je voulais être plus brève.
Bon, j'essaie évidemment, comme tout à l'heure, c'est-à-dire de ramasser ce que je considère comme les mêmes questions, les mêmes thématiques, etc., pour donner un avis. Mais je veux dire, bon, le but, c'est un échange. Donc, c'est pas de. Comme on dit d'ailleurs, un débat n'est jamais achevé. C'est-à-dire, c'est pas. Gal, il y a des réponses définitives, c'est comme ça. Non, c'est un débat qu'on va. Le but, c'est de s'enrichir mutuellement et d'essayer d'éclaircir au mieux et de voir devant. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il y a une question, vous avez entièrement raison, il y avait une première fois un camarade. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait, alors que j'avais noté, j'ai sauté une ligne, là, donc je n'ai pas répondu sur la thématique, la constituante, la question de la constituante. Sur la question de la constituante, on parle de conception, c'est-à-dire en ce qui concerne notre courant, mais il y a d'autres courants aussi qui revendiquent une constituante. Depuis la clandestinité, je me souviens de la question de la constituante. La question de la constituante, elle est à la base de tout. C'est-à-dire en Algérie, le peuple algérien, depuis 62, en tout cas depuis l'indépendance, n'a pas choisi de façon libre, etc., son projet de société. On nous a toujours, quelque part, imposé, même s'il y a eu donc la constituante de 1962-63, 64, mais... Voilà. Et qui a, 103, donc, et qui a été vite, d'ailleurs, présidé par, Ouesmo, par, Farhat Abbas, d'ailleurs, où il y avait donc, Aït Ahmed comme membre, des gens comme ça. Bon. Et, il y a eu la constitution, d'ailleurs, de cette époque-là, mais vite, le coup d'État a mis un terme à tout ça, le coup d'État de 65. Mais, même la constitution, elle a été faite dans les conditions que l'on sait, le magiste et Koubembel, bon. C'est-à-dire que, l'Assemblée constituante, Ouesh Ma'amta. مجلس تأسيسي واش معناه لا اون روبيان دي مجلس تأسيسي وي فون كونستيونت كتر اي بوكو دو موند بالك نو لاسامبلي كونستيونت veut dire que le peuple élise une assemblée كيما تاع البرلمان تاع on élit une assemblée. Alors la différence c'est quoi? C'est que l'assemblée constituante elle a une mission et ensuite elle doit être dissoute. Et c'est quoi sa mission? C'est de proposer un projet de constitution au peuple et le peuple va voter dans un référendum, etc. Et une fois qu'elle fait ça, on passe ensuite à mettre en place donc les structures, etc., prévues dans cette constitution, juste. Voilà, grosso modo. Et donc, constituante, c'est par rapport à la constitution, notamment. C'est-à-dire de proposer un projet de société écrit dans une constitution. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la constitution, par exemple, nous, la constitution qui existe, elle n'est pas passée par un débat populaire. Elle n'est pas passée... Parce que le plus important, c'est le débat. Le débat pour élire cette constitution. Et le débat, je veux dire, ensuite, sur le projet qu'il nous propose. Il faut que le peuple, Bekul Atiafé, et même si mon ami Dr Ullman va insister sur le peuple et les classes, etc., bien entendu, mais là, démocratiquement, le peuple participe et s'exprime, etc. Et il y aura des intérêts donc différents, etc., qui s'exprimeront pour avoir une constitution. Alors, le problème de la constituante, c'est quoi? Le problème de la constituante, c'est que quand la constituante, Methelen, se fait dans un contexte comme celui de 62-63. Quand on fait une constitution dans le contexte de 62-63, comme ça s'est passé en Algérie, ça veut dire on est dans la dynamique de la guerre de libération. Mais la guerre de libération, donc ça veut dire le kifah pour l'istiqlal et contre France ou l'istimar, mais elle moujoud fil mujtama' bi sifa qawiya. Donc la constitution, hadik raha tmchi fi hadak at-tariq, parce que sur le kayen une hégémonie de telle idée, donc il y a un rapport de force dans la société qui va dans ce sens. Mais quand il n'y a pas ça dans la société, ce qu'on appelle d'ailleurs le processus constituant. Est-ce qu'il y a un processus constituant dans la société ou pas? Parce que la constituante, on va faire une constituante et tu auras une majorité de, je sais pas, Daesh, va avoir le fils majoritaire. Maintenant, c'est possible. C'est possible qu'on fait des élections libres, machin, et il y aura une majorité islamiste qui va dans le sens. Non seulement on aura le libéralisme, etc., etc., à la Bouteflika, mais en plus, t'as même pas le droit de dire le casquette avec les d'ailleurs, c'est-à-dire il va falloir, c'est-à-dire même les libertés individuelles, etc., etc. Bon. Alors ça nous fera une belle jambe d'avoir une telle constituante. Donc c'est-à-dire, il y a une problématique aussi, dans les contextes. Donc c'est-à-dire, la constituante normalement, c'est-à-dire on se bat pour l'issue de la constituante, notamment dans des contextes, maintenant par principe, et notre principe c'est aussi ce qui est écrit dans nos programmes, en tant que PST, etc., l'assemblée constituante bien sûr, depuis toujours, mais ça fait longtemps avec l'expérience des années 90, etc., où cette problématique est soulevée pour nous. On dit assemblée constituante, et si c'est nos ennemis de classe qui seront majoritaires, ce qui est fort possible quand il n'y a rien. On est en train de voir en ce moment que la force de l'argent, c'est elle qui est en train, hein, c'est la force de l'argent qui finance les candidats, etc., le parlementaire, Sabchkara, etc., donc c'est ça. Et pourquoi pas, ça sera pas la même chose, c'est-à-dire l'assemblée constituante, pourquoi ça se passe pas comme ça? Et donc on aura un projet encore ultra-libéral. Donc la question est légitime. On est d'accord, bien, c'est-à-dire c'est une question fondamentale qui se pose. Et c'est pourquoi nous, par exemple au PST, ça fait une vingtaine d'années même, la fin des années 90, on a commencé, c'est-à-dire à trouver une formulation, je crois que c'est une, entre guillemets si vous voulez, je crois une sorte de parade dans la formule, pour essayer de prendre en charge cette préoccupation, même si elle ne la résout pas. Que cette question se résout sur le terrain des luttes, dans la réalité, etc., et non pas dans le truc. Et donc la formulation, c'était de dire, oui, pour une constituante souveraine, etc., etc., qui, et on met un qui, pour qualifier. Donc ce que disait Yasmina tout à l'heure un petit peu, rejoint ça, c'est-à-dire on partage ça. C'est-à-dire, bon, Même si Yasmina dit, mais il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Et on va dire, comment elle, est-ce qu'on va imposer qu'elle soit du côté du travail? On ne peut pas. C'est-à-dire, sinon, ce n'est plus la constitution de souveraine démocratique. Le peuple souverain, il décide. Allez, il a, le peuple souverain, il aura une assemblée constituante. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça la problématique. Donc, c'est-à-dire, pour relever ça, on essaye, et ça, c'est pour le combat politique sur la constituante, on dit, on pourrait une assemblée constituante qui, deux points, et on commence les traits. Qui prend en charge telle revendication, qui prend en charge telle revendication, etc. Et donc, pour une assemblée constituante sur donc pour le libéralisme, qui prend en charge les aspirations, les intérêts des travailleurs, etc., etc., et des masses populaires sur le plan social, sur le... Donc on met toute une plateforme économique et sociale, et on met toute une plateforme démocratique. Donc sur les libertés démocratiques, sur le droit des femmes, c'est ça la parade. Donc nous, on se bat pour cette assemblée constituante. On va pas se battre pour une assemblée constituante qui va nous fusiller, évidemment. Donc c'est-à-dire... voilà. Donc ce que je veux dire, c'est toute une problématique, etc., mais qui est souvent pas prise en charge. D'ailleurs, souvent, il y a, c'est-à-dire, sur ce type de problématique, parce que tout à l'heure, quelqu'un disait le rapport de force, qu'est-ce que vous entendez par le rapport de force? Ça veut dire se battre dans la société pour faire en sorte, est-ce que ce n'est pas les idées rétrogrades, ce n'est pas les idées libérales, ce n'est pas les idées passéistes, etc., qui prennent le dessus. Donc on se bat dans la société pour faire en sorte, est-ce que des idées de progrès, etc., et c'est pourquoi on dit les travailleurs et leurs alliés, les masses populaires, etc., les femmes, etc., on cite tout ça parce que c'est des forces objectivement qui vont dans ce sens. Mais parfois, c'est-à-dire si on n'est pas là, justement, si on se bat pas, si on se renforce pas, si la convergence à laquelle on appelle, etc., sur la question des droits, etc., ne se renforce pas, etc., c'est les autres idées qui vont les influencer. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire, c'est une bataille politique dans la société concrète. Quand, par exemple, il y a eu le problème des années 90 avec le FIS et l'islamisme, eh ben, il y avait les éradicateurs, RCD, machin, DS, etc., ce qui était disait, les islamistes, il faut les bloquer, tout ça, etc., par tous les moyens. C'est-à-dire, quitte à bombarder les quartiers, en quelque sorte. Et ceux qui étaient réconciliateurs, etc., ils disaient, non, il faut négocier, trouver des solutions, ils ont été Saint-Égidio, il y avait ça. Et ces deux pôles qui prédominaient. Et comme s'il fallait être comme si, il fallait être comme ça. Si tu n'es ni là, ni là, ben c'est... Bon. Ben nous, on n'était ni là, ni là. Évidemment, on n'était pas très audibles. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire quand on revoit les positions des uns des autres, parce que pour l'histoire, c'est important. On n'a pas changé le monde dans les années 90, on ne l'a pas encore changé. Mais les positions que tu prends, etc., t'aident plus tard à te construire, à dire, voilà les positions, moi, que j'ai... on a pris. Ben, les positions qu'on a prises, on a dit que, bien sûr, ils font une solution politique. Mais la solution politique, etc., qui ne permet pas aux islamistes, donc là, c'est de se battre au sein du peuple pour construire le rapport de force anti-islamiste et anti-pouvoir. Si on passe pas par là, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, les généraux, les dieux du coup d'État, comme certains appellent souvent au coup d'État, etc., et ben, donc, s'ils le font, ils le font aussi ensuite pour les intérêts, etc. Pourquoi des généraux vont faire un coup d'État pour tes beaux yeux, pour que les travailleurs ou pour que les masses populaires, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, même si ça peut exister dans l'histoire. Mais je veux dire, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, si on construit pas le rapport de force dans la société, eh ben, on va pas imposer justement un projet, etc., pour lequel on se bat. On va se retrouver, donc, voilà. Et donc, la position de principe dans les années 90, c'est qu'on a dit, nous étions contre ceux qui appelaient aussi, d'ailleurs, une fois la une de notre journal, c'était pourquoi on appelle Clinton à venir contrôler Israël. Ceux qui disaient, il faut que les autres... Eh ben non, on est contre parce que Clinton ou les États-Unis ou l'impérialisme en général, c'est-à-dire ils ont des intérêts, ils n'interviennent pas comme ça pour intervenir. Ce qu'on reprochait à Saint-Égidio, ce n'est pas uniquement le contenu, parce que parfois le contenu on n'est pas d'accord, mais par exemple sur le principe d'une solution politique. Bien sûr qu'il faut une solution politique. C'est un problème politique, il faut trouver une solution politique. Pour voir la solution. Quand il n'y a pas eu la solution politique, ça a donné les 10 ans et le nombre de morts que l'on sait, etc. Mais Saint-Égidio, c'est aussi, c'est-à-dire d'un point de vue de la symbolique. Il y avait un gars du département des États-Unis, d'Américain, qui est dans la réunion. Il représente le département des affaires étrangères américaines. Il y avait, je ne sais pas, etc. Alors qu'il aurait été possible peut-être de... C'est-à-dire d'avoir ce côté un peu indépendant de tout ce moment. Ce que je dis, ça, c'est de l'histoire, je veux dire. Mais je rappelle juste par rapport à cette importante question, qui est l'indépendance de classe, pour revenir à ce que disait Ullmann tout à l'heure, quand tu parlais peuple, classe, etc., sur cette indépendance, c'est-à-dire d'avoir une vision d'indépendance de classe, dans le sens de construire l'indépendance de classe. Ensuite, on va la construire, etc., ça c'est un autre débat, ça on verra. Mais c'est-à-dire, le cap historique, etc., c'est-à-dire à ne pas se tromper sur les positions historiques, le cap historique qu'on doit absolument prendre. Donc sur la question de la constituante, elle fait partie de nos revendications élémentaires. Élémentaires. Il y a des hadjas, bien sûr, il faut l'Assemblée constituante. Ensuite, on dit, mais nous, l'Assemblée, quand on se bat pour la constituante, on va dire, il faut que la constituante soit comme si on la qualifie et on met dedans toute une plateforme. On aimerait que ça soit, bon. Parce que ce n'est pas normal qu'une assemblée même pas constituante, même Hadi Wesmo, que sa majorité ne représente pas les intérêts de la majorité. Il faut que ça reflète les intérêts de la majorité. Et les intérêts de la majorité ne sont pas Haddad ou la Rabarab ou la Boudvira. Les intérêts de la majorité sont ceux d'en bas qui représentent la majorité du peuple algérien, avec cette tendance, etc., notamment au niveau économique et social, et notamment au niveau démocratique. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut poser le problème de la constituante de notre point de vue. Donc, on est sensible à tous ceux qui se battent pour la constituante, parce qu'elle fait partie de notre programme depuis la clandestine même, donc bien avant 89, et elle est toujours dans notre truc, tant qu'on n'a pas ensemble les choses. Ensuite, bon, les appellations. Vous savez, les titres, les appellations, par exemple, il y a des copains qui disent Deuxième République, quoi, des choses comme ça. Bon, on appellera comme on veut, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est quand on utilise des slogans comme ça et on parle pas du contenu. Là, ça pose problème. Parce qu'il y a ceux qui disent il faut la Deuxième République. Mais c'est quoi la Deuxième République? Il faut dire, c'est quoi son contenu économique, social, démocratique? C'est ça qui est important. Mais je vais pas marcher avec des gens qui disent juste Deuxième. Par exemple, au début, je disais, il y a ceux qui manifeste contre le cinquième mandat. Eh ben oui, bien sûr, on est contre le cinquième mandat, c'est évident. Et nous, d'ailleurs, au PSC, on dit, quand on me posait la question à l'époque, les conférences de presse, je dis, nous, on était contre la première, la deuxième, la troisième, et s'il y a une septième, parce que on est contre le projet libéral et le projet, donc, autoritaire, etc., etc., du système. On était contre, d'ailleurs, le système à l'époque de Zelwali, à l'époque de Chedli, à l'époque de Beauvais, à l'époque de... On n'était pas d'accord avec le régime. C'est pourquoi, d'ailleurs, notre courant en tant que PST qui s'appelait GCR avant 89, était fondé d'ailleurs en 74. Si on l'a fondé, donc ça veut dire qu'on n'était pas d'accord déjà en 74, à l'époque de Bombadil, etc., etc., sur Taoudjouhadad. Donc ça veut dire que la constituante, etc., et le changement, on a. Mais c'est par rapport à un programme et un projet de société. Et donc ça veut dire, quand on dit Deuxième République, quand on dit, je ne sais pas, il y a d'autres slogans comme ça qu'on trouve de temps en temps, la République, je ne sais pas quoi. Ou là, ce qu'ils disent les démocrates. Par exemple, la dernière expérience, vous vous souvenez, il y a encore 2 ans, là, donc, les Chitam of Zeralda. Ah, donc, ISCO, RCD, Hamas, Majin, etc., Benflis, Bétor, par exemple, bon, ils disent démocrates, d'un point de vue démocratique, etc. Mais par exemple, quand on a. D'ailleurs, ils nous ont invités une fois. Enfin, au début. Galki Ledjou. Mais c'est-à-dire, ils ont joué, ils ont. Ah, madame Galki, je crois. Mais elle a une place à l'Azotilabritodjo. Bien sûr, on n'a pas été parce qu'on leur avait dit il aurait fallu. C'est-à-dire, leur plateforme. Et non pas de discuter du contenu avant. Quand on est sincère, je vous invite pas à venir adopter mon projet politique en tant que PST. Tout à l'heure, je sais pas, dans le débat, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, il faut qu'on le fasse mal, c'est-à-dire la convergence, etc., ça c'est un petit peu le cap qu'on propose, convergence démocratique, anti-libérale, anti-libérale, mais c'est-à-dire pour définir les trucs, c'est avec les autres. Mais par exemple, ils étaient contre le droit de grève, est-ce que vous le savez? Hadou, les démocrates, ils se réclament de la démocratie. Le droit de grève, ça veut dire, j'ai en moi, bout de flic. Ah oui, c'est un droit de grève, la constitution, même s'ils ne le respectent pas. Mais au quête, bouffe de ce Hadou, ils étaient contre, ils ont dit le droit de grève. Pourquoi? Parce que, parmi eux, il y a beaucoup, je veux dire, qui sont plutôt, dans le secteur des patronats, des patrons, etc. Et ils aimeraient que les travailleurs ne puissent pas avoir le droit de grève. Et d'ailleurs, ils ont, dans le secteur privé, on voit bien, ils répriment toute tentative de construire une section syndicale. La dernière, oui, on a licencié jusqu'à 60 travailleurs. Mais aussi dans le secteur public. Vous savez qu'à Air Algérie, il y a les 12 syndicalistes de la SNTMA qui sont donc licenciés depuis un jour ou deux. Voilà. Donc voilà. Ce que je veux dire que les slogans adoptés à Deuxième République, etc., il faut se méfier, il faut toujours avoir, qu'on ait le réflexe de dire qu'est-ce qu'on met de dedans. C'est ça le cap, etc. Ensuite, on l'appelle Deuxième République. Ou là, pourquoi pas? Bon, sur les autres questions, je vais passer. Sur, je ne sais pas, sur le NDS, bon, voilà, parce qu'il y a une question précise. Sur Fethi Gherres, la candidature de Fethi Gherres, pourquoi ne pas soutenir, etc. Bon, alors, premièrement, c'est-à-dire Fethi Gherres, ma galnèche, le candidat, ou galha le programme, est-ce que vous pensez quelque chose? Est-ce qu'on peut discuter, comme je viens de le dire pour Jemaat Zeralda? Donc, il avait son programme, il a proclamé sa candidature, et il est en campagne. La deuxième des choses, quand on a examiné de près, tout à l'heure, j'ai cité un exemple, il est en train de répéter un programme que le FMI défend, que la Banque mondiale, sur la question des subventions, il veut retirer. Vous savez que même la bourse, les étudiants, bon, et ensuite, on donne ses 58 000 dinars par mois, je sais pas, des trucs comme ça, etc. Mais il a dit avec transport, et patati patata, donc là, on le met dehors, etc. Et ça veut dire, on est dans la logique, par exemple, la question des subventions, des transferts sociaux, parce que c'est une question fondamentale. Que les transferts sociaux, c'est aussi la santé, c'est aussi les écoles, c'est beaucoup de choses. Bon, alors, par exemple, quelles sont les subventions, etc. Et là, ça fait longtemps que ce discours idéologique libéral, etc. est là. Parce que les riches en profitent. Et en réalité, on voit bien que c'est quand même. C'est-à-dire, quels sont les riches qui profitent? Moi, tu ramènes des trucs, etc. Alors, il te dit, ou le boulanger, il dit, le farine a des subventionnés, ou il dit, le pâtisserie, alors que, normalement, le khobz est subventionné, d'accord? Dire l'eau des taxes. Avec le boulanger, il dit, ça veut dire, l'État doit jouer son rôle de contrôle. Tu fais des taxes. Tu dis, si, tu prends un quota supérieur à ça, on me dit, le khobz, etc., dire, à Jafra, l'État, bah, fait acteur, eh ben, on va pas te subventionner, on est d'accord? Il dit, les taxes, etc., etc. Est-ce que vous avez vu, on m'a dit riche, ils jouent la chaîne, t'as le camion, t'as le hliba, 4h, 5h, 7h du matin, etc. Non, les riches, même jouent, ils jouent beaucoup, ils jouent beaucoup avec RAM, ils jouent les publicités, donc c'est qui n'est pas subventionné. Donc c'est pas le sachet de 25 dinars, mais je le chauffe, etc. Et d'ailleurs, de mauvaise qualité souvent, et ensuite on s'étend qu'on trouve le chauffe, et le chauffe, parce que aussi, parfois, mais une cliché. Bon, je veux dire, c'est-à-dire que les subventions vont évidemment profiter aux petits, à la majorité des travailleurs, à la majorité des masses populaires. Et il faut les défendre. Si les riches en profitent, il faut les taxer. Et pour les taxer, déjà commençons par leur imposer le paiement de leur fiscalité. Il y a une évasion fiscale. Vous savez combien ça coûte l'évasion fiscale? Au dernier chiffre, autour de 12 500 milliards de dinars. Milliards de dinars. 12 500. C'était 10 000 d'ailleurs qu'il a voulu 10 000. 12 500 minimum. Et il y a un an. 12 000, ça veut dire que les riches ne payent pas. Ne payent pas leurs impôts. Pire, il y a même le débat sur le fait qu'il se le faut soir d'un... Parce que vous voulez investisseur, mais si j'ai soir d'un l'héritage, non, il va à la banque, il va à la BEA, ou le CPA, ou le BDL, ou le BADR, c'est-à-dire le Draham Cheb Jazaïri, où il dit soir, il ne rembourse même pas. Voilà la problématique. Il ne rembourse même pas. Donc ça veut dire qu'on a affaire à, entre guillemets, à des nababs en quelque sorte. Il dit Draham, mais comme ça, je les impôts, mais rembourser, etc., etc. Voilà. On est dans cette situation, Yajma'a, et donc il va falloir bien le rappeler aussi, de ce point de vue, parce que c'est extrêmement, je veux dire, le sujet. Donc les transferts sociaux, les subventions, etc., au contraire. C'est une question fondamentale à défendre parce que sinon c'est des acquis qu'on est en train de perdre. Souvenons-nous aussi que c'est-à-dire l'État social algérien est une évidence pour nous. L'État social est une évidence parce que l'Algérie, c'est-à-dire il est bien de l'Algérie. L'Algérie c'est un État récent, c'est un État jeune et qui est le produit d'une guerre de libération et d'une lutte d'un siècle et demi, voilà. À travers le mouvement national et les révoltes d'avant. Et donc ça veut dire que l'État social, c'est écrit dans la proclamation du 1er novembre. C'est écrit, l'État social. Donc c'est-à-dire, l'État social, il faut le défendre. On doit se battre pour cela parce qu'il va du minimum, disons, requis pour ceux d'en bas. Il y a enfin peut-être d'autres questions précises. Sur la planche à billets, c'est quoi la planche à billets, etc. Je veux dire, la monnaie. Bien sûr, ceux qui critiquent la planche à billets, qu'est-ce qu'ils proposent? Bien sûr, le pouvoir use. Pourquoi il use de la planche à billets? Parce que, comme on le sait depuis le début des années 70, la monnaie, la masse monétaire dans un pays, ce n'est plus uniquement l'or, ou du moins l'or, le stock d'or que tu dois avoir pour compenser le volume de la masse monétaire, depuis le début des années 70, 11 à peu près, c'est le dollar aussi. Donc le dollar joue un rôle aussi. Donc les réserves en dollars, si tu as des réserves en dollars, c'est selon les réserves en dollars, tu es rac dépasser les seuils ou pas, etc. Mais tout ça, c'est un jeu, je veux dire, qu'on peut, c'est-à-dire développer, je veux dire, de façon plus profonde, etc. On finesse techniquement sur ce sujet, mais pour ne pas trop, je veux dire, partir loin sur ce sujet, c'est que l'apparat, c'est quoi? Il y a des réserves en Algérie. Alors, ils ont choisi d'aller vers la planche à billets à l'emprunt étranger. Ceux qui sont contre la planche à billets, ils proposent l'emprunt. Rederi dit il faut aller vers l'emprunt extérieur. Voilà ce dont il s'agit. Alors, l'emprunt extérieur ou pas, dans l'absolu, pourquoi pas? C'est pas ça la question. La planche à billets, pourquoi pas? La question n'est pas là. La question, c'est pour faire quoi? On fait tourner la planche à billets dans quel but? Pour résoudre quoi? Ou on va à l'emprunt pour faire quoi avec cet argent? C'est ça la question. Alors, dans les années 70, quand il y avait un emprunt extérieur, mais l'emprunt extérieur qui donne le Hadjar, qui donne les universités qu'on a construites, qui donne les infrastructures construites à cette époque, les usines, etc., etc., c'est une chose. Et l'emprunt à l'époque de Chedli, avec Daniel Kadita, qui était pour parfois acheter des trucs superflus, etc., Et même aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas normal d'ailleurs, un certain nombre de choses. Si on veut vraiment construire une économie nationale, bien sûr qu'on doit la défendre, qu'on doit la protéger, on ne doit pas aller à l'OMC, on doit refuser l'accord d'association avec l'Europe dans les conditions qui nous sont imposées, on doit être, etc., etc. C'est-à-dire si on veut défendre notre économie nationale. Donc la planche habillée n'est pas, on ne peut pas être pour ou contre comme ça. Il faut dire par rapport d'ailleurs à tes moyens, je veux dire, etc. Et ensuite, pour faire quoi? Pour résoudre quelle, aller dans quelle politique? Les finances que tu vas, la monnaie que tu vas créer, elle va dans quel sens? Et ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on peut donc être pour la planche à billets dans tel sens et on est contre la planche à billets. Allez. On peut être pour l'emprunt extérieur, Hagba, et on est contre l'emprunt extérieur. Donc, c'est-à-dire, il va falloir raisonner comme ça. Sinon, pour le reste, les questions donc, précises, le PST, j'ai dit au début, surtout pour notre ami tout à l'heure qui parlait à partir de Sogharas, etc., que le PST n'a pas tranché définitivement, jour d'aujourd'hui, à cet instant, la question de participer ou ne pas participer, de présenter un candidat ou pas, ou de soutenir un candidat autre. On n'a pas tranché cette question. Maintenant, j'ai essayé de dire que moi, je pense, c'est-à-dire que le contexte tel qu'il se présente, etc., ne pousse pas vraiment, c'est-à-dire à aller à une participation dans des conditions aussi, je veux dire, peu démocratiques. Peut-être qu'il y a 8 mois, il y a 1 an, on aurait pu peut-être décider aller pour la présidentielle 2019, présenter quelqu'un et faire une propagande et donc une campagne, etc., pendant un certain nombre de mois. Ça peut être jouable, etc., tout en disant encore une fois que les élections, pour nous, c'est une question tactique, c'est pas une question stratégique. C'est-à-dire participer ou ne pas participer, c'est pas ça qui est fondamental pour nous. Ce qui est fondamental, c'est la campagne qu'on doit mener, qu'on soit contre ou qu'on soit pour. Donc ça veut dire c'est ce combat politique qu'il faut mener. Et souvent, vu les rapports de force, on peut décider de participer parce que les travailleurs, le peuple, les masses populaires ne comprennent pas aussi que tu sois un parti politique et tu n'es pas là. Le jour où on doit choisir entre les idées, toi, tu n'es pas là. C'est tout. Et tu vas critiquer et tu restes dans absent. Les gens normaux, le peuple, pour reprendre encore un terme, etc., c'est-à-dire ils attendent à ce qu'il y ait des offres politiques, à ce qu'on propose des choses, etc. Et ma foi, c'est-à-dire en général, plutôt, il faut profiter de cette tribune pour aller faire de la propagande sur des idées, etc., même si on participe ensuite à la fin ou pas. Ou le but, ce n'est pas celui de gagner les élections. Et donc, notre ami tout à l'heure qui disait pour le PST, de toute façon, quand il fait Barbacha, etc., on aurait aimé qu'il y ait des milliers de Barbacha en Algérie pour nous, mais malheureusement, c'est-à-dire, on ne va pas refaire tout le topo sur, je veux dire, j'ai essayé au début d'ailleurs de mon intervention, de mon introduction, de dire le recul, les choses, les effondrements qui ont eu lieu dans le monde, etc. C'est que les idées de gauche ont régressé, ça on l'a dit. Et on régressait, on a reculé, etc. Bien sûr, depuis, j'ai dit l'effondrement de l'URSS. Donc, on aurait aimé, mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on essaye de trouver. Parce que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, du point de vue du PST, pour reprendre aussi notre ami Woolman, ce camp, le camp des travailleurs, le camp de classe, mais dans l'immédiat. On ne peut pas attendre, parce que ça prend du temps. Dans 20 ans, dans 10 ans, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner non plus. Combien même le projet, tu peux le voir lointain, mais dans l'immédiat, tu dois avoir des positions, tu dois avoir tout. C'est pourquoi je parlais de tactique, etc., dans l'immédiat. Et c'est des tactiques qui construisent ce sens. Le sens avec. Et parfois, non, parfois l'histoire, elle est là, fait des bons machins. Et de ce point de vue, Abdel Wahab, tu as parfaitement raison, quelque part, si tu veux, de façon générale, parce que dans le détail, on peut toujours avoir, comment dirais-je, des nuances ou des différences à dire. Mais tu as raison de dire il y a une opportunité, il y a des choses maintenant. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça le sens aussi de la question. Donc ne pas s'inscrire uniquement. Et tout le but de dire les questions, la priorité du combat pour la liberté démocratique, tout le sens que je disais tout à l'heure pour le ma'na ta' tawafuq démocratie, le mu'adil libéralia ou l'impérialia. La convergence démocratique, antilibérale et anti-impérialiste, comme démarche, etc., du PST, et Sobo, en réalité, dans cette réponse, dans l'immédiateté. Immédiatement, voilà ce qu'il faut faire. Immédiatement, si le mouvement, si l'idée de l'Assemblée constituante, par la propagande, c'est une issue. Nous, on veut une Assemblée constituante qui est représentative, etc., et qu'on définit, qu'on dit qui prend en charge ça, sur les questions sociales, économiques et démocratiques, etc. Voilà, on va se battre ça. Bon, ça, c'est une réponse, disons, concrète. concrètes. Mais même les réponses concrètes, parfois, ils sont pas aussi concrètes que ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ensuite, c'est-à-dire, c'est le terrain qui le dit, la réalité des luttes, la réalité de l'évolution de la situation, et aussi des moyens et des forces que nous sommes. Il faut pas oublier, on va pas se raconter des histoires. Le PST n'a pas beaucoup de force, ça, c'est évident. Sinon, ça se saura. Donc, c'est-à-dire, on est dans un rapport de force qui n'est pas forcément favorable, mais on travaille pour changer les choses. Raison de plus pour changer les choses. Quand il n'y a pas un état de droit, c'est raison de plus pour se battre pour faire un état de droit, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire, donc raison de plus. On a donc des réponses. Right? La convergence antilibérale et anti-impérialiste, démocratique antilibérale, elle a une plateforme, etc., qu'on propose, mais à discuter, etc., mais qui va dans ce sens. Et c'est quelque chose de précis. C'est-à-dire, on ne fait pas des alliances avec un chacun blanc. Là. Bien sûr, c'est plateforme précise, point par point, que ce soit dans un front démocratique, sur les questions strictement démocratiques, etc., etc. On écrit les points, etc., etc. Nous, par exemple, on n'est pas trop pour la liberté d'entreprendre. On préfère mettre en avant les libertés d'expression, de manifester, de s'organiser, d'avoir des médias, de faire grève, etc., parce que c'est des outils, avant tout, qui vont profiter à ceux d'en bas. C'est ceux d'en bas qui ont besoin de ça pour se battre. Parce que c'est ceux d'en bas qui sont en train de se faire écraser. Ceux qui ont les milliards, etc., etc. Oh, ils ont leur empire médiatique, ils ont leur télévision, ils ont leur truc, etc., pour s'exprimer, pour faire leur propagande, pour acheter les places au Parlement, etc. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc ça veut dire, faut bien raisonner que les libertés démocratiques, c'est fissal hna avant tout. Et on définit au moins ces quatre ou cinq. Généralement, ceux qui lisent les déclarations du PST, ils trouvent, généralement, à titre d'exemple, on cite Hado parce qu'ils sont essentiels et prioritaires. La convergence anti-démocratique, anti-libérale, fia la question Hadoma démocratique, fia le côté anti-libéral, donc sur le plan économique, les choix économiques et sociaux, et fia l'aspect anti-impérialiste, c'est-à-dire pour défendre l'indépendance, la souveraineté de notre pays, etc., par rapport à ce combat à l'échelle, parce qu'on est dans ce combat aussi, à l'échelle internationale. Donc, c'est-à-dire, voilà, grosso modo. Donc, ceux qui se reconnaissent dans ces aspects-là, ben, on fait une convergence et on constitue, ben, dans ce mot front, ou dans ce mot entente, ou dans ce mot kimabrina. L'important, c'est que on converge, concrètement, et avec toutes nos forces, etc., on essaye ensuite de se lancer dans des actions, dans des luttes, etc., dans la société, pour faire progresser donc ce projet, etc. Donc concrètement, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Abdelwahab posait la question. Ben je ne sais pas. Ben on verra bien, à mon avis. Mais moi, en tout cas, c'est-à-dire dans la discussion, bien sûr. C'est plus sympathique de dire, mais concrètement, je ne sais pas, je mettrai pas la main en feu, je ne sais pas si c'est la fin d'un cycle ou pas. Ce qui est sûr, c'est que bien sûr, il y a toujours des cycles qui se terminent et d'autres qui démarrent. Tout à l'heure, dans mon exposé, j'ai essayé de dire, je pense qu'on est au début d'un nouveau cycle d'un point de vue de lutte. Parce que j'ai essayé de dire, la vague qui a suivi 2007-2008, c'est-à-dire la vague qui a donné le printemps arabe, la vague qui a donné l'Amérique latine, la vague qui a donné les indignés, des choses comme ça, etc., s'est essoufflée. Et là, peut-être, c'est un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. On verra bien, avec notamment ce qui se passe en France, les gilets jaunes, etc. C'est-à-dire, c'est un nouveau cycle des luttes à l'échelle des luttes, etc. Mais on verra bien. Est-ce que le cinquième mandat, est-ce que ce qui est en train de se passer contre le cinquième mandat, etc., constitue une opportunité? Certainement. Certainement, c'est une opportunité. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit au début, il ne s'agit pas non plus, c'est-à-dire de se retrouver utilisés. Ceux qui sont contre le cinquième mandat, contre Bouteflika, eh ben, on peut comprendre aussi que ça veut dire ils sont pour leur délai, puisque leur délai, c'est, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'aider, un oligarque aussi, ou là, un représentant, en tout cas, des oligarques, etc., de l'autre côté. Et donc, ça veut dire, il va falloir dire, c'est pourquoi, c'est-à-dire, le combat contre quelque chose ne suffit pas, il faut toujours aussi définir pour quelque chose. On dit, on est contre le cinquième mandat, etc., et on est pour une alternative, donc, telle que j'ai essayé de la définir. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais ensuite, tactiquement, est-ce qu'il faut aller se frotter avec ces gens pour faire la propagande justement sur l'alternative qu'on défend? Oui, si c'est possible, oui. Bien sûr, il faut expliquer aux gens sur le terrain politique. Donc c'est un combat politique, comprenons-le bien, donc dans ce sens, de dire oui, bien sûr, on est contre le cinquième mandat, on est contre la continuité de ce système libéral, ce système autoritaire, ce système prédateur, etc., ce système allié d'ailleurs des intérêts aussi, etc., dans les proportions que j'ai dit, parce que quand même, le pouvoir est moins inféodé aux puissances étrangères en Algérie qu'au Maroc ou que Sissi qui dépend de l'aide américaine annuelle. Donc c'est-à-dire c'est différent, mais je veux dire quand même le maintien du système en Algérie se fait toujours à l'occasion des élections d'ailleurs avec les satisfaits des États-Unis, de l'Union européenne, etc., qui envoient toujours des observateurs, vous le savez, mais des observateurs qui ne voient rien. Généralement, on dit, oui, c'est pas très, mais je voulais, c'est bon. D'ailleurs, c'est bon parce que, avant ou après, il y a toujours les contrats avec le General Electric américain, ou là, comme on a vu Alstom, en 2008, par exemple, le métro, les trucs, qui étaient en faillite d'ailleurs. Total, machin. C'est-à-dire, c'est les multinationales qui viennent négocier leur part du gâteau. On ferme les yeux et en contrepartie, on a les carnets de commandes qui maquillent déjà Hollande en 2012, d'un carnet de commandes bien chargé d'ailleurs de contrats, etc. Donc, grosso modo, aussi ça. Donc, ça veut dire, on va se battre contre le cinquième mandat qui a ce contenu, mais il faut qu'on définisse l'alternative. Ceux qui vont dire, cinquième mandat, eh ben, là, qui sont en train de se gourer, et ils sont en train d'aider Balak. Donc, c'est-à-dire, il va falloir dire on est contre le cinquième mandat, mais on est aussi contre tout le projet du libéralisme. Lidji Bourderi, ou la Benflis, ou la XLY. On est contre même ceux qui sont contre les élections, et où on ne participe pas, etc. Et on va voir la forme de truc. Il faut voir, examiner, est-ce qu'ils sont de ce côté ou de ce côté. Maintenant, tous ceux qui sont pour les libertés démocratiques, on se donne un sur ces points, mais on les écrit dans une plateforme précise. Mais encore une fois, je rappelle ça, parce que c'est très important, parce qu'on risque d'être mal compris par certains, et puis tu vas avoir plein de gens qui disent « Oh, Mahmoud a dit que c'est un... » Bon, entendons-nous bien, il s'agit de plateformes démocratiques précises avec des revendications démocratiques précises, pas plus. Pour la convergence libérale anti-impérialiste, ceux qui sont contre le projet libéral, ceux qui sont pour défendre notre souveraineté, l'indépendance, etc., et les intérêts, les richesses nationales ne profitent pas aux multinationales, etc., etc., on fait un front donc un peu plus large encore même. Mais ensuite, le front de classe, d'en parler ou même, etc. Oui, mais avec c'est un autre niveau aussi. Mais dans l'immédiat, on est tellement kemcha, j'allais dire, c'est-à-dire pas très nombreux, sur le combat de classe, etc., que c'est-à-dire on va pas commencer par dire aux gens il faut aller dans le combat de classe. Le niveau de conscience en ce moment en Algérie, etc., il peut y avoir tel ou tel élément avancé que tu rencontres dans la vie, et effectivement, on peut converger là-dessus. Mais en général, les gens sont en train de faire leur expérience. Les grèves, etc., les gens font, sont en train de faire, c'est au fur et à mesure que la conscience progresse. Et la conscience progresse aussi par les comme قال واحد قال كي تقربوا تناظر هذاك العصا اللي يعطيها لك البوليس في الدماغ بان سا فيه بروغريسي لا كونسيونس باسكو سي لا او tu vois que l'état est un état oppresseur qui est au service d'une couche sociale, d'une petite classe sociale, etc., etc. Voilà. Donc c'est à dire les gens sont en train de faire leur expérience et nous on les accompagne, on est dans les luttes. Pour le camarade qui disait mais la gauche machin, etc., on est dans les luttes, on est dans les luttes là où on peut, on est dans un certain nombre de syndicats, on est dans un certain nombre de luttes, de comités de lutte, etc. Maintenant on n'est pas des dizaines de milliers. Si on était des dizaines de milliers, ben, on fera mieux. Ben, malheureusement, non, parce que c'est un contexte historique. J'ai essayé de le décrire tout à l'heure, un peu difficile, mais nous, on est comment dirais-je, c'est-à-dire, on est très optimiste par rapport au cycle qui s'ouvre. On pense qu'on va vivre peut-être des moments de lutte, etc., mais aussi de répression, de difficultés, mais aussi, c'est-à-dire, de possibilités. Et donc, sur le cinquième mandat, j'espère avoir un peu, disons, brossé un petit peu la possibilité. Voilà, sinon, c'est-à-dire, je sais pas, pour des questions de dire à Sogaras comment faire pour les gens, etc., ben, je ne sais pas, c'est pas venu pour recruter des militants PST. Mais je veux dire, le PST, c'est un parti, comme un autre, je veux dire légal, tout ça, etc. Et donc celui qui veut le rejoindre, Marhababi, au contraire, ça nous fait plaisir. Et le PST, c'est un parti qui débat, c'est un parti qui échange, etc. C'est pas un parti où, c'est-à-dire, on le rejoint pour appliquer strictement. Mais on débat, etc. Bien sûr, il y a une ligne politique, bien sûr, il y a tout ça, mais c'est-à-dire, on débat, on discute, etc. Et on essaye de trouver la meilleure médiation pour lutter, les meilleures médiations pour faire progresser la conscience, les meilleures médiations pour aller de l'avant. Donc, pour conclure, il y a, dans quelques jours, on va rendre publique une position techniquement, disons, participer, participer ou soutenir. Parce que, entre nous, il y a un débat, hein, il y a toujours eu des débats à ce sujet. Je veux dire, quand il y a des élections, il y a toujours ceux qui estiment qu'il ne faut pas participer, il y a toujours ceux qui estiment qu'il faut participer, et il y a parfois ceux qui estiment qu'il faut soutenir tel ou tel représentant parce qu'il est proche de... Tu vois, bon, donc, ça ne va pas... Cette fois-ci, ça sera la même chose, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on va trancher la direction nationale du PST, qui est l'équivalent d'un comité central. Donc, la direction nationale du PST va trancher, va se réunir d'ailleurs bientôt. C'est au cours des quelques jours qui viennent, donc au courant de février, probablement. Donc le parti va rendre sa position, même si je vois un peu mal, c'est-à-dire la participation dans condition de participer pour faire problème. Là, ça prend une allure un peu complexe. Et donc, on va voir aussi dans le sens du mouvement anti-cinquième mandat, et donc les dynamiques qui sont en train d'exercer, d'examiner tout ça pour les intégrer comme éléments importants de la situation politique et de la démarche à suivre. Voilà, j'espère avoir un peu touché les différentes questions, j'espère. Je ne sais pas s'il y a une question particulière à laquelle je n'ai pas répondu. Voilà, je pense que si. Je pense que j'ai essayé de prendre en charge les différentes questions. Donc, encore une fois, j'aimerais dire que le débat continue. C'est pas fini. Un débat n'est jamais achevé. Donc, on n'est pas loin d'ailleurs. On organise parfois des rencontres, des débats, etc. Soit en tant que PST, soit en tant qu'espace de débat, TEMIMI, etc. Donc, il y a toujours des rencontres qu'on fait. La deuxième des choses, c'est que j'aimerais remercier particulièrement Raj. En fait, pas seulement pour aujourd'hui, pour cette invitation, mais pour toute l'activité, je veux dire, régulière, etc., que Raj n'a pas cessé, disons, de maintenir, malgré les difficultés, malgré les contacts toujours pas aussi favorables. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il est important d'avoir aussi un espace comme Raj, etc., qui nous réunit pour échanger utilement. Et j'espère que ça a été utile, cet échange, en essayant de clarifier un peu les choses. Et merci à vous aussi, à tous ceux qui ont été là. Comme ça, merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre
pour une parole libre.